Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Tombé dans l'ingénierie dès ses 12 ans avec le programme F1 in School et après un master à l'université de Troyes et un passage par l'université de Shanghai, il se lance dans l'entrepreneuriat comme freelance, puis en cofondant MyCTO. En 2020, il lance la suite logique SparkMate, un cabinet de venture building destiné aux plus grandes entreprises du monde telles que Arianespace, Zodiac et Sherlock notamment, qui sont aujourd'hui ses clients. Salut Morgan, comment tu vas?
Salut Paul, ça va? Écoute, ça va très très bien aujourd'hui.
Ça fait trop plaisir de t'accueillir à notre micro. J'ai envie de dire que ça commence à faire un petit moment là qu'on se voit.
On est ouf, ouais.
On se voit toutes les semaines.
Toutes les semaines, vous venez squatter mes bureaux.
C'est exactement ça. Mais du coup, tu me fais une transition toute faite. C'est quoi SparkMate? Comment je dois le pitcher?
Je pense que tu le pitcheras mieux.
Ouais, écoute, j'ai une petite modif à faire sur le pitch que t'as fait. Mais en gros, donc en 2020, j'ai monté SparkMate. SparkMate, on fait deux choses. On fait du développement de produits et du venture building dans l'IoT. L'IoT, c'est l'Internet of Things, c'est les objets connectés, la robotique.
T'as un exemple ou pas
d'IoT? L'IoT et de la robotique. L'IoT, c'est tout ce que vous avez autour de vous maintenant qui est connecté. En fait, c'est tous les objets qui interagissent avec le web sans action humaine. Donc, tu vois, ça va être le capteur de température dans ta maison qui retransmet en direct. C'est de l'IoT. Nous, on fait de l'IoT un peu plus complet. Je peux vous donner des exemples parce que derrière les mots venture building et développement de produits, qui sont des mots un peu crus. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on aide des entrepreneurs et des entreprises, des corporates qui ont des idées et qui veulent les concrétiser, les amener sur le marché. Donc en gros, t'as une idée pour, je sais pas, disons que tu t'appelles, je te prends un exemple, tu t'appelles Ariane Group et tu veux faire ton premier prototype d'atterrisseur de fusée. Tu viens nous voir en disant, est-ce qu'on peut faire un proto avec un atterrisseur de fusée qui a une philosophie différente de ce que fait SpaceX. Nous, on va tester, on est une équipe d'ingénieurs et on teste plein de trucs, donc on va tester de développer le produit et on va le lancer. Donc ça, c'était
plus
un projet.
C'est
un deal que j'ai fait. Je te prends un autre exemple. On a une grande marque de bateaux qui vient nous voir en disant on veut faire des boîtiers pour faire de l'optimisation de performance sur nos bateaux. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient et on teste, on voit qu'est-ce qu'on peut faire déjà sur le bateau. On regarde les possibilités techniques, possibilités business, et après derrière, on vient créer un produit. Donc à la fin, c'est dur à expliquer comme ça sur un podcast, mais c'est faut vous imaginer un petit boîtier qui récolte toute la donnée qui se passe sur le bateau, la transmet dans le cloud automatiquement avec des réseaux de télécommunications comme vous pouvez avoir sur le téléphone 5G, 4G, LTE, envoie tout ça dans le cloud et une fois que toute cette donnée est dans la base de données, on la traite, on l'analyse, on fait tourner des algos dessus et avec ces algos, on va optimiser la performance et donc on fait une boucle et on revient dans le bateau et dans le bateau après
tout
qu'est-ce qu'on fait
en temps réel.
Et ça on fait ça en temps réel, ouais.
J'ai vu en plus ils sont stylés aux petits boîtiers.
Ouais, t'as vu.
Comment t'as appris à faire tout ça?
Écoute, moi je suis tombé dans l'ingénierie hein, comme Paul a dit quand j'avais 12 ans, c'est vraiment ce qui m'a lancé dedans, mais je pense que c'est avant, entre guillemets, dans le sens où, tu vois, mon grand-père est dessinateur technique chez Michelin, était dessinateur technique chez Michelin, mon père travaille chez Renault, tu vois, donc c'est je pense un truc un peu familial,
un truc un peu familial,
et en fait, quand j'avais 12 ans, j'ai, peut-être même avant, je crois que c'est 12, j'avais 12 ans à peu près, j'ai été, il y a mon collège qui a proposé un programme qui s'appelait F1 in School, course en cours en français, le pitch c'était construis ta propre mini écurie de F1. Et donc il fallait vraiment, moi à l'époque j'étais fan de F1, je voulais devenir pilote de F1 à cette époque-là, je suivais la F1, mon père travaillait chez Renault, tu vois.
Donc, ouais, c'est...
la F1, c'était... Et donc j'étais fan de F1 quand j'avais 12 ans. Et donc quand on m'a proposé de faire une écurie de F1, je me suis dit vas-y, j'y vais, quoi. Et donc là, il fallait faire, s'il y avait 5 aspects, faut vraiment monter, c'est comme si tu montais une petite boîte, en fait.
Quoi.
En fait, fallait monter la partie marketing, ton logo, le nom de ton équipe, il fallait aller lever des fonds parce qu'il fallait financer le développement, ouais. Donc il fallait chercher des sponsors.
Dingue. Au collège, donc, en fait, j'aurais tellement aimé faire
quand
ça.
Quand j'avais 12 ans, en 5e, j'allais toquer à la porte de tous les commerçants de ma ville en disant, vous voulez pas me filer 50 balles, filez-moi tous 50 balles et je vais mettre votre logo sur ça. Donc, fallait faire ça, fallait faire la conception de la voiture. Donc sur Katia, fallait concevoir la forme aérodynamique et faire la forme la plus aérodynamique possible de la voiture. Et après, t'avais tout le sujet organisationnel, managérial, parce que t'avais une équipe de, tu vois, je crois qu'on était 5 ou 6 quand on a fait ça. Et donc à l'époque, je me suis lancé là-dedans. Et donc on a fallu aller toquer au, donc à, en 5e, toquer aux portes, récupérer le financement, concevoir la mini F1. Donc tu vois, à l'époque, Katia nous avait donné une licence. Le bouquin, il devait faire pour apprendre à servir de Katia, il devait faire 500 pages. Et je me suis déboulé, tu vois, dans le soir et week-end. Et c'était parti, tu vois.
Tu l'as lu en vrai? En vrai, tu l'as lu?
Le bouquin, bien sûr. C'était impossible. Tu sais, c'était Katia, c'était moi. J'ai commencé sur Katia V5, tu vois, et c'était la V5 R18 ou V5 R17, je crois. Et c'est vraiment, c'était la vieille, quoi. Et ce Katia-là, tu vois, c'est un logiciel, tu vois, j'aurais même pas la prétention de dire que je le connais,
ouais.
Tu vois. Parce qu'en fait, tu scratches que la surface, tu vois. C'est vraiment très compliqué comme logiciel.
C'est l'équivalent des Solid Edge, c'est ça, SolidWorks, c'est le même genre.
C'est l'ancêtre, entre guillemets, c'est... Pour moi, Katia, c'est le logiciel de conception assistée par ordinateur. C'est là-dessus qu'on conçoit les fusées Ariane, c'est là-dessus qu'on conçoit les Airbus, c'est là-dessus qu'on conçoit la majorité des voitures du monde.
Pour les auditeurs qui sont moins familiers, en fait, c'est là où justement tu vas modéliser en 3D.
Tu modélises. Mais tu fais même plus que ça, tu fais de la simulation.
Ouais.
Moi, à l'époque, tu vois, dessus, je faisais la simulation, et c'était en 2009, la simulation de numérique.
Pour les commandes en fluide, ce genre de choses.
De fluide, ouais. De le vent, tu vois, la simulation numérique en soufflerie, tu vois, soufflerie numérique dessus. C'était incroyable. Et j'ai appris à me servir de ça quand j'avais 12 ans. Donc, en fait, quand t'as 12 ans et que tu sais te servir de ça, ça te donne un unfair après dans la vie qui est malade mental. C'est qu'après, d'ailleurs, tu vois, j'ai voulu avoir en vrai ce que je concevais dans la vraie vie et j'ai découvert le champ des possibles de la fabrication numérique et je voulais m'acheter une machine à commande numérique, une fraise à commande numérique. C'était beaucoup trop cher. Et je suis tombé sur des chaînes YouTube d'Américains un peu fous qui en fabriquaient. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, allez, vas-y, c'est parti. Et j'ai trouvé, tu vois, sur YouTube, à regarder, tu vois, tout ça. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a lancé dans l'ingénierie, qui m'a poussé à faire ça. Et puis, bah, après, voilà, une fois que j'avais fabriqué ces machines-là, j'ai monté un petit Fab Lab, un des premiers Fab Labs en France, qui s'appelait MNT Systems à l'époque. Donc c'était ni plus ni moins, tu vois, qu'une salle de 70 mètres carrés qui nous avait été donnée par la mairie, dans laquelle ils nous payaient l'électricité et le chauffage. Et après, nous, on se démerdait, donc on avait amené nos propres machines, on concevait nos imprimantes 3D, et ces machines-là, à l'époque, il y avait toute une philosophie qui était un mouvement un peu bizarre, un peu hippie de l'ingénierie, où en gros, c'était, on parlait de machines autoréplicatrices.
Ouais.
Donc en fait, quand t'avais une machine, tu pouvais en fabriquer une autre. Et donc en fait, le but du jeu, c'était de dire, en fait, on va. À l'époque, on était tous dans une espèce de vibe en disant, on va complètement révolutionner la fabrication.
On fait des machines qui font des machines.
Voilà. Et en fait, avec une imprimante 3D, t'es capable d'en refaire une. Et donc en fait, une fois qu'on en avait une, fois que moi j'avais fabriqué ma première machine, bah j'ai fabriqué les machines de tous mes potes, tu vois. Et donc on fabriquait nos machines. Une fois qu'on avait nos machines, on pouvait fabriquer des plus grosses machines. Et en fait, ça nous a juste amené comme ça à avoir des machines et des moyens de fabrication qui étaient dignes de certains pros. Alors qu'on avait 15 ans, on était dans une salle et en fait ça nous a ouvert beaucoup de choses. On a fait plein de trucs et c'est là qu'on a eu des premiers clients pour autofinancer notre business. À l'époque, on vendait des prestats, on vendait nos week-ends. On était 5, on vendait nos week-ends pour, tu vois, 600 euros. C'est mental maintenant, tu vois ce que je me dis, tu vois. Et après voilà, je suis rentré en école d'ingé, je me suis un peu fait chier au début, j'ai eu envie de drop out.
J'imagine, du coup.
Je suis parti à Shanghai, je suis revenu, je suis parti en Australie, et puis après j'ai créé MyCTO, et après j'ai créé SparkMed, quoi.
Mais justement, il y a une question qui me vient en tête, c'est à quel problème ça vient répondre pour toi, SparkMed? Comment tu te dis, je vais créer cet environnement finalement propice à créer du venture
Ouais, alors les deux sujets, c'est que je voyais que dans toute cette histoire, en fait, parce que tu vois, en fait, quand je crée SparkMed, c'est comme si j'avais 10 ans d'expérience, tu vois. Enfin, je vais pas dire 10 ans d'expérience, mais ça fait 10 ans que je suis dans cette espèce de marché, tu vois, où je vois, en fait,
t'as une connaissance des problèmes
des gens,
quoi.
Ouais, je vois les problèmes des gens, tu vois. Et en fait, je me rends compte au début, quand je crée mon premier Fab Lab, j'attaque le même problème, mais de la façon, sur le côté de la facilities, tu vois. Ouais. En me disant, les gens, ils ont besoin d'avoir accès à ces machines. Personne n'a accès à ces machines, tu vois. Et à l'époque, c'était vrai parce que les machines coûtaient vraiment très cher. Maintenant, les machines, tu vois, les machines, quand on fabriquait une imprimante 3D, tu vois, ça nous coûtait bien 1000 balles de la fabriquer, tu vois. Et maintenant, t'achètes des machines pour 250 euros sur Amazon, tu vois. Parce que c'est devenu un peu plus grand public, ça a été industrialisé. À l'époque, c'était pas industrialisé.
C'est comme maintenant, sur les campus, tu trouves plein de trucs.
Voilà, ouais, c'est ça. À l'époque, tu vois, moi, quand je suis rentré en école d'ingé, Tu vois, c'était il y a pas si longtemps. Hein. Je suis rentré en école d'ingé en 2014. Il m'appelait pour réparer les imprimantes. J'avais été appelé par le labo de mécanique pour réparer les imprimantes 3D parce que le mec ne savait pas s'en servir, tu vois. Et c'était quand même un truc, c'était encore, tu vois, genre...
C'était balbutiant.
C'était le début, tu vois, de ça, tu vois. Et même dans une école d'ingé, dans un labo de méca, les premières imprimantes 3D, ça fait longtemps qu'il y en a, mais vraiment grand public, ça fait pas longtemps, tu vois.
Ouais.
Et encore, je dis grand public parce que c'est... Moi, je pense pas que c'est une techno grand public. C'est une techno... qui est accessible à des ingénieurs, à des gens qui ont envie de débricolo, mais c'est pas une techno grand public. On n'imprimera pas demain dans notre maison, et même moi je le vois même pas à 10 ans, on n'imprimera pas la pièce de son aspirateur.
Ça sert à rien.
Voilà, comme avant, mais ça c'était, nous c'était le rêve dans lequel on était.
Ouais, je vois un peu le moi, quand quoi tu parles.
Moi en 2009, tu vois, le rêve dans lequel j'étais, c'était de dire on imprimera des objets comme on imprime les pages, comme on a une imprimante chez nous. Et on imprimera, tu vois, on casse la pièce de notre aspirateur, on imprime, on la refait, tu vois.
Ça n'arrivera jamais. Il faudrait que tout soit open source, que tous les
tout soit open source, c'est beaucoup trop compliqué. Mais c'était le rêve dans lequel on était, tu vois. Ouais. Enfin, tu vois, et c'est ça ça a beaucoup tenu une grosse partie de la communauté impression 3D de 2010 à enfin ouais de 2005 à 2015, tu vois. Et du coup, ouais, donc je te disais, j'ai commencé par la facilities. Après, je me suis rendu compte que c'est pas ça, et je me suis rendu compte que les gens, ils avaient beaucoup plus besoin de skills et de knowledge et ce que j'avais dans la tête. Donc, j'ai fait une boîte de conseils qui s'appelait MyCTO. Et puis je me suis rendu compte à la fin de MyCTO en fait que c'était pas ça qui me permettrait d'avoir un impact de malade, et qu'en fait que quand il venait le temps de faire des projets complexes, tout le monde était à poil, personne savait vraiment comment faire, et qu'en fait il fallait une boîte qui avait facilities, people, network,
ouais,
et capital entre guillemets. Le capital venant des clients, tu vois. Donc j'ai décidé dès le début de dire, en gros, mes clients vont apporter le capital des projets qu'on va faire, et nous on va apporter tout le reste.
Je dirais qu'aujourd'hui pour une boîte dans la hard tech, c'est vraiment les quatre grands piliers sur lesquels il faut.
Bah ouais, clairement. Bah en fait, si tu veux faire de la hard tech, en fait le problème c'est que c'est dans le mot hard tech, il y a le mot hard en mode compliqué, tu vois. Et tu vois, quand les gens ils disent hardware is hard, ça c'est vrai.
Ouais.
Mais il y a moyen de le faire less hard, tu vois. Et le vrai sujet quand tu fais de la hard tech, c'est qu'en fait, la pluridisciplinarité du projet fait que tu dois ramener beaucoup de personnes. Qui dit beaucoup de personnes dit problèmes managériaux, dit ça coûte très cher, dit et surtout
bureaux,
pareil en termes de fab, en fait, même si tu veux faire de la fab, comparons un SaaS.
Ouais.
Prenons deux exemples. Un mec qui monte un SaaS et un mec qui monte. Allez, on va pas prendre un truc compliqué. On va prendre un nouveau casque audio, tu vois, par exemple.
Ouais.
Quand tu montes ton casque audio, disons que t'as une application qui est connectée avec, tu vois. On dit que tu montes un truc comme ça. Le mec qui monte son SaaS, globalement, il peut le faire tout seul. Un peu de no code.
Ouais,
peut-être un petit peu de code.
Complètement.
Franchement, globalement, t'es capable de le faire tout seul. Dans le hardware, en vrai, il faut aller vraiment deep sur la partie méca. Il faut aller vraiment deep sur la partie électronique. Tu vas avoir besoin de la même chose au niveau software. Mais sauf qu'au niveau software, tu vas pas pouvoir utiliser du no-code. Parce que les no-code, en fait, ils font très bien 80% des use cases. Mais très très mal le reste. Et donc, il va quand même falloir coder. Là, tu vois, on est déjà à 4 personnes. Tu vas aller chercher après derrière. Une fois que t'as ça, t'as les problèmes d'industrialisation. Et donc, t'as vraiment beaucoup, 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 beaucoup de personnes à qui va falloir que tu ramènes autour de toi. Et ça, c'est juste pour faire la conception du produit. Derrière, donc ça, déjà, ça coûte très cher. Derrière, après, il faut que tu ailles industrialiser. Qui va fabriquer? Il faut que tu aies accès aux facilities, il faut que tu aies accès. Et donc, c'est un sujet qui est très hard. Après, qui dit grosse barrière à l'entrée, si tu arrives à casser la barrière à l'entrée, les
barres
sont énormes. Et si tu regardes, en fait, regarde les capitalisations boursières. Tu vois, t'as des grosses boîtes dans le software. Mais si tu regardes à la fin de la journée, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes sur lesquelles et les plus belles boîtes, et tu vois, enfin, peut-être pas les plus belles boîtes, mais des boîtes qui sont très sexy en ce moment, c'est des boîtes qui s'attaquent à ça, tu vois, qui s'attaquent au projet, enfin, qui s'attaquent à l'industrie. C'est des Tesla, c'est des SpaceX, tu vois, en France, on n'en parle pas assez, mais moi, tu vois, c'est une boîte qui m'inspire énormément, c'est Exotech.
Ouais, tu vois,
on en parle pas assez. Pour moi, c'est la boîte la plus sous-cotée de l'écosystème, tu vois, ouais. Parce que personne n'en parle.
Personne sait ce que c'est, hein.
Personne
sait
ce que c'est.
Alors qu'ils sont partout dans l'industrie.
Mais ça fait, je sais pas exactement combien ils font en termes de chiffre d'affaires, mais tu vois.
C'est difficile. Hein. C'est un marché qui est très difficile.
C'est des centaines de millions qu'ils font en chiffre d'affaires. Et personne n'en parle. Parce que c'est moins, enfin.
Ouais, parce que c'est pas grand public, tu vois. C'est pas grand public. En vrai, personne n'en parle, mais quand tu parles à des directeurs d'usine, à des gars dont c'est le métier, tu vois.
Ouais, non, c'est sûr.
Ils en parlent, tu vois.
C'est sûr.
Quand tu fais de l'industrie purée et dure.
Mais il y a un vrai sujet, tu vois, où, et pourquoi moi aussi, tu vois, et SparkMate, et ça, c'est ma thèse à moi, là, en ce moment, mon gros truc, c'est de dire qu'en gros, si tu réfléchis un peu, pour moi, une grosse partie des plus gros problèmes de la société se résolvent via le hardware. Si tu réfléchis à comment tu bouges des gens et des goods autour du monde, enfin, du matériel et des gens autour du monde, c'est globalement un problème de hardware. Si tu réfléchis à comment tu produis de l'énergie, c'est globalement un problème de hardware. Enfin, deep tech, tu vois. En fait, et du coup, là, il y a un retour en force, en fait, du hardware, là, depuis, on le voit depuis 6 mois. Parce qu'en fait, les gens, ils ont commencé à réaliser ça. Ils ont commencé à réaliser qu'en fait,
on a atteint un certain palier sur tout ce qui est techno.
Ouais, et que en fait, à la fin, en fait, et c'est que surtout, en fait, une boîte, c'est simple. C'est l'équation d'une boîte, c'est t'es payé en fonction de la magnitude des problèmes que tu résous. Si tu résous des gros problèmes, t'es payé très cher. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est quoi? C'est Elliott. Elliott, la boîte qui fait du nucléaire aux US. Si eux, ils craquent le fait de faire des mini-réacteurs et qu'ils craquent le fait de faire la fusion, la fusion nucléaire, mec, c'est la plus belle boîte, enfin, c'est la plus grosse boîte du monde, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste que ces problèmes-là, il faut arriver à les craquer, tu vois. Mais c'est comme Tesla, c'est que tu vois, c'est quand le mec, il dit, en gros, je vais arriver à craquer le problème de faire bouger les gens, de façon sustainable, et de façon très safe. Quand il s'attaque à ce marché-là, tout le monde dit, t'es un malade mental. Tu vois ce que je veux dire? Et là, au final, tu regardes la capitalisation boursière de Tesla, elle est peut-être haute, mais regarde la capitalisation boursière de Tesla face à toutes les autres grosses marques de bagnoles. Tu vois, maintenant, c'est Ford qui utilise les chargeurs de Tesla,
ouais.
Tu vois.
Ouais, ce que je veux dire? Gérald électrique et tout.
Ouais, ouais, tu vois, c'est des gens qui se sont attaqués à des très, très gros problèmes, tu vois. Et ils vont être payés très cher pour ce qu'ils les résolvent, tu vois.
Et du coup, mais pourquoi les grands groupes, ils ont besoin de ça? Aujourd'hui, tu vois, moi, je me dis, un grand groupe, ils ont des ressources humaines, des ressources économiques, de l'influence. Ils peuvent aller récupérer des brutes dans chacune de, sur leur facture clé de succès, tu vois, et innover.
Ouais, je vais te donner un exemple tout bête. Le jour où un des gros trucs, tu vois, c'est le jour où j'ai travaillé avec Ariane. Genre, j'ai pas compris, tu vois. En fait, Ariane Group, ils m'ont trouvé un pitch à Station F.
Ouais.
Ils m'ont dit, est-ce que t'es capable? Ils ont vu qu'on avait fabriqué des imprimantes 3D. Ils m'ont dit, est-ce que t'es capable de fabriquer une très grosse imprimante 3D? Elle va pas imprimer, mais est-ce que t'es capable de fabriquer une très grosse machine? Moi, j'aurais dit, ouais, je pense que oui, tu vois. On signe tous les NDA qu'il faut, les machins, les trucs, et ils m'expliquent leur concept, tu vois. Moi, je me dis, ouais, ça me semble dans nos cordes, ça semble dans ce qu'on est capable de faire. On valide et tout, et puis tu sais, moi je m'y attendais pas tout le long, tu vois, dans les procès, je me disais, le deal il va capoter, ça va jamais marcher, tu vois. Je dis, on est trois mecs, pourquoi on était trois,
parce qu'ils ont quoi, ils sont 6-7 000 un truc comme ça,
je sais pas, mais ils ont les meilleurs ingénieurs du monde, tu vois, ouais, on va pas se mentir, tu vois. Je dis, pourquoi trois mecs qui ont jamais fait d'aérospatial? Moi, j'avais jamais fait d'aérospatial. Pour la petite anecdote, avant de rentrer sur le pitch avec Ariane, je me suis maté une vidéo de c'était quoi les différences entre Ariane 6 et Ariane 5. Ariane 62 et Ariane 64, je l'ai appris dans la vie, je m'en rappelle encore dans ma vie de c'est quoi la différence entre Ariane 62 et Ariane 64. C'est parce que je l'ai regardé avant de rentrer dans la salle, tu vois. Et donc j'en savais rien. En fait, à la fin, je leur ai dit, mais pourquoi vous avez travaillé avec nous une fois qu'on avait fini le deal? Ils m'ont dit, en fait, le temps que vous avez développé le projet en moins de 6 mois, nous, c'est le temps qu'il nous aurait fallu pour construire une équipe en interne.
Okay. Et c'est dû à quoi, tu penses? Est-ce que c'est purement managérial? Est-ce que c'est dans l'ADN de ce grand genre de boîte?
C'est juste que en fait, c'est juste que l'innovation, c'est très, très dur pour des grands groupes. Dans le sens où, enfin, et là, je vais peut-être parler comme un livre ouvert à la mauvaise page, dans le sens où, moi, tu vois, j'ai jamais eu de fiche de paye, j'ai jamais été employé, mais j'ai ma petite idée, tu vois, à force de discuter avec les gens. Et c'est qu'en fait, un grand groupe, t'es là pour limiter les risques.
Ouais.
Le but du jeu, c'est que tu veux maintenir un steady cash flow, tu veux que t'aies un bon EBITDA à la fin de l'année, et pour ça, tu vas limiter les risques. Après, t'as des grands groupes qui prennent plus ou moins de risques, t'as des grands groupes qui innovent plus ou moins, mais la majorité, ils innovent pas. Et on va pas se mentir, Ariane qui se fait taper aussi fort par SpaceX, c'est à cause de ça. Ariane, l'Europe,
Du fait de ce public en plus. Ouais,
ouais mais pendant,
ils étaient leaders,
pendant des années, ça a été des leaders. C'était des leaders mondiaux, tu vois. Et après, t'as SpaceX qui arrive, mais c'est la même chose qui arrive à Ford. Tu vois, les mecs qui regardent, ils disent l'électrique, on n'y croit pas. Maintenant, tout le monde dit on fait que de l'électrique. Tu vois
mais après, on va dire tout le monde fait de l'hydrogène. Alors que c'est même
pas ouais, c'est ça, ça, tu vois vraiment... ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, c'est juste qu'au début, en fait, quand t'as vraiment une très bonne idée,
ouais.
en fait, tu passes pour un fou. Ouais. Et t'es un fou, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, et c'est normal. Et en fait, et je pense que c'est là aussi la capacité des entrepreneurs, c'est de passer pour le fou pendant longtemps. Et qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, on dit, moi, il avait raison. Mais en fait, enfin oui, sauf qu'au début, tout le monde lui a dit qu'il avait tort. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ces grands groupes-là, c'est aussi une question de personne, tu vois. C'est une question de, il faut que tu penses que les gens, nous, là, tu vois, je pense que les gens qui écoutent votre podcast sont plutôt des entrepreneurs, ou en tout cas, plutôt dans la vibe entrepreneuriale. Faut se dire qu'en fait, quand les gens vont lancer des projets d'innovation, c'est pareil, même les gens dans les grands groupes, le risque reward pour eux, pour leur carrière, là, t'imagines, tu dis, je vais investir, moi, je suis directeur de je sais pas quoi.
J'ai investi plusieurs millions et ça se trouve
plusieurs millions, ça capote.
Ouais, ça la fout mal.
Ça la fout mal. Je mets ma, et c'est d'ailleurs, tu vois, un des trucs qui fait que je pense aussi pourquoi l'innovation va aussi lentement dans ces groupes-là, tu vois.
Donc toi, tu te fais payer au résultat?
Bah, en fait, je me fais payer au résultat. C'est qu'en fait, moi, tout ce qu'on fait, ça fait du résultat. mais nous, on se fait payer. Nous, le modèle qu'on a, c'est qu'on a un modèle très simple. Toutes les 5 semaines, on sort une nouvelle version du produit, une nouvelle itération. 5 semaines, toutes les 5 semaines, c'est un prix fixe. C'est 100 000 US$. Et voilà. Et donc, en fait, tu travailles avec nous pendant un an, ça te coûte 1 million, c'est tout, quoi. Donc, le business model est simple. Clair, c'est ce qui fait qu'on a aussi une structure qui est très très lean. Tu vois, j'ai pas de management dans la boîte. Tu vois, on est une trentaine de personnes. Il y a pas de sales. Il y a un gars là qui est arrivé dans la boîte en plus de moi, qui s'occupe, mais qui lui est en fait un venture builder, donc il fait un peu de sales.
Il fait de la relation client.
Ouais, il fait même pas tellement en fait. Il a un profil plus business que les. Mais sinon, la majorité de l'équipe c'est que des ingénieurs.
Purs et durs, des.
Oui et non, le titre des ingénieurs chez nous, c'est product engineer.
Ouais.
Tu vois, ça doit te dire quelque chose, tu vois, entre guillemets, dans le sens où c'est pas, tu vois, on n'a pas, c'est pas écrit, tu vois, c'est vraiment, il y a vraiment cette notion de produit, on fait des choses, qui ont un sens d'un point de vue business, tu vois. Le produit, c'est la croisée de la tech et du business, tu vois. Donc, nous, on déteste, tu vois, développer des projets qui vont rester au cimetière des belles inventions, tu vois.
Pour revenir sur les grands groupes, est-ce qu'il n'y a pas deux catégories d'innovation, les innovations qu'on pourrait dire, tu vois, d'incrémental, juste des petites améliorations de ce qui existe déjà, et pour ça le risque est pas énorme, donc les grands groupes ils sont chauds pour faire ça, et les innovations de rupture qui là nécessitent un gros risque et là faut un venture builder.
Ouais, bah t'as deux choses en fait, t'as déjà innovation de rupture et innovation incrémentale. Globalement, c'est où est-ce que tu mets le threshold de l'innovation? Mais l'innovation, c'est toujours de l'incrémental, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a jamais des choses qui sont purement inventées de toutes pièces en partant de zéro. Tu vois? C'est tout le temps un truc, même si t'as des innovations de ouf, c'est toujours un dérivé de quelque chose. Tu vois, t'as jamais eu un...
Mais tu vois, quand tu passes de la voiture thermique à la voiture électrique...
T'appelles ça quoi?
Bah, de rupture, ça fait une rupture sur le marché.
Après, c'est vrai que c'est un combiné de plusieurs technologies.
Ouais, mais c'est une grosse incrémentation. Enfin, tu vois, c'est la taille de ta marque.
Oui,
tu vois
voilà,
ce que je veux dire?
C'est une grosse incrémentation.
Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, mais oui, c'est sûr que.
Mais dès qu'il faut faire de l'éducation sur le marché, en vrai.
Mais c'est sûr. Par contre, je pense que là où et pourquoi, c'est pour ça que moi, je prêche beaucoup le venture building. C'est qu'en fait, je crois beaucoup, en fait, les grands groupes. Tout le monde crache dessus en disant les grands groupes c'est pas bien et tout. Les entrepreneurs sont les premiers à le faire. Moi je pense que ces grands groupes là, c'est des machines de guerre. Elles sont là, et ils sont pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire, genre. Et en
et
fait,
puis,
si t'arrives,
un
si
grand
t'arrives
groupe, ça
à
peut
être...
mourir en vrai. Hein. Il y a plein d'histoires de grands groupes qui sont morts.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, pourquoi le venture building? Moi ce que je trouve bien, c'est qu'en fait je trouve que le venture building ça vient prendre les forces des grands groupes,
ouais.
Les réseaux de distrib, le network, la capacité à quand il faut scaler fort, tu vois, parce que et en fait amener, en fait faire du venture building, c'est ni plus ni moins que spin-offer des idées, tu vois. Soit tu spin-off une idée qui a déjà eu, moi j'aime pas trop quand l'idée elle vient directement du grand groupe parce qu'en général ils sont biaisés, mais tu vois, si t'as une équipe, tu crées une équipe de venture builder dans un grand groupe, tu vois, et tu dis voilà, ok, on travaille avec cette boîte là, on va monter un projet dans le même footprint que notre boîte existante. Que le grand groupe existant, on va ce projet-là, se servir du réseau de distribution, se servir de tout. On va pas être en compétition directe avec le grand groupe, mais on va être dans une relation un peu complémentaire, tu vois. Et donc, tu peux faire travailler cette spin-off à part. Elle doit avoir un management à part, elle doit avoir un reporting à part. Tu dois pouvoir lui laisser respirer, tu vois. Elle doit pouvoir faire. Et il faut que quand tu te lances sur un projet, il y a la potentialité que cette boîte-là, elle devienne potentiellement plus grosse que la boîte que t'as déjà créée, tu vois.
On va revenir là-dessus juste après. Mais aujourd'hui, est-ce que tu trouves que les grands groupes, ils ont réellement du mal à bouger et ils ont du mal à... Tu vois, est-ce que l'idée qu'on a de, d'un grand groupe dans l'écosystème startup, est-ce que tout ce qui se dit à Station F, le lieu que je crois autour de la table, on aime tous le moins dans l'écosystème, c'est vrai ou pas?
Je pense que ouais, il y a un vrai truc. Moi, quand je discute avec des directions innovation, avec des grands groupes, en général, la problématique est tout le temps la même. C'est de dire, c'est comment on fait de l'innovation? Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a eu, un moment, il y a une grosse, un gros tournant autour de la transformation digitale, c'était le gros sujet des directions innovation. On va se transformer, on va se digitaliser, on va faire ça. Maintenant, il y a un vrai sujet, c'est comment, c'est plus une logique, entre guillemets, de projet. Comment est-ce qu'on lance des nouveaux produits? Comment est-ce qu'on lance des nouvelles lignes de business? Comment est-ce que, et notamment, en fait, après Covid, tu vois, où en fait, tout le monde a pris une grosse petite baffe dans la tête. Il y a plein de gens qui se sont dit, en gros, le monde est pas, c'est pas les bisounours. On a peut-être besoin de diversifier nos revenus, de lancer des nouvelles offres dans ces nouveaux sujets. Mais en général, sur ces sujets-là, ils sont quand même souvent à poil. Ouais. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, si c'est un business où en gros, il faut arriver à créer une équipe qui fait ça. Et donc, en général, c'est des questions, soit tu recrutes en interne, soit tu recrutes en externe, mais c'est tout le temps très compliqué.
Et ouais, ça manque pas de dynamique, c'est ça, et d'agilité vraiment, tu dirais.
Moi, le sujet, c'est ça. À chaque fois, quand je viens nous voir, c'est quand les gens viennent nous voir, ils sont choqués par ça, tu vois.
Mais du coup, les freins, c'est vraiment que l'ADN?
Je pense que c'est une question d'ADN, c'est une question de culture. Ouais. C'est une question, en fait, c'est une question où tu te bats, quand tu lances un nouveau produit, tu te bats en face d'une start-up.
Ouais.
Et une start-up, ça va vite, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le seul moment où, en fait, ils se font taper, les grands groupes, c'est quand ils essaient de faire ça, c'est le truc le plus inconfort pour eux, tu vois. Ce que je veux dire, c'est d'aller lancer des nouveaux produits. C'est là où ils se font taper par des startups, tu vois. Alors que quand on est dans des phases de scaling, là, tu tapes et ils savent faire. Ils déroulent le playbook du M&A et puis c'est réglé, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Et gros LBO et puis c'est réglé, tu vois.
Mais totalement. Est-ce que c'est possible s'ils vont chercher un mec avec une ADN entrepreneuriale qui a les valeurs du groupe? Et ils montent une équipe et ils créent une boîte, une spin-off, tu vois.
Ouais, ça se fait. Après, ça se fait des fois plus ou moins bien, suivant. Tu vois, en général, des fois le problème, c'est qu'il faut vraiment que les gens, un que tu vas mettre en place déjà, soient vraiment des entrepreneurs.
Ouais.
Donc, faut les incentiver comme des entrepreneurs.
Ouais.
Dans un grand groupe, en général, c'est compliqué de faire ça.
Ouais, il y en a un qui est passé à ce micro. On dira pas qui, hein, mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de spin-off qui sont passés à ce micro, qui a 1% de sa boîte. 1% de sa boîte.
Ouais,
mais il l'a monté dans plusieurs pays. Aujourd'hui, il a un beau paquet de salariés et tout. Et il a 1% de sa boîte, quoi.
Mais ça, après, voilà. Et après, il faut bien incentiver. Il faut arriver à trouver... la bonne relation, c'est une vraie logique. Moi, je te le dis, on l'a fait sur plusieurs boîtes. On voit la difficulté que c'est pour eux et comment c'est violent pour ces grands groupes d'arriver à le faire, quoi.
Mais c'est qu'une question d'ADN ou tu penses qu'il y a autre chose derrière?
Moi, je pense que c'est beaucoup une question d'ADN et une question de process corporate. Aussi. Process corporate aussi, tu vois. Mais tu vois, c'est un peu comme Total qui revend son fonds de CVC, tu vois ce que je veux dire, genre en gros, c'est qu'en fait ils arrivent pas à le gérer, tu vois ce que je veux dire, ces trucs corporate venture capital, mais c'est compliqué pour ces gens-là. C'est comme si toi demain on te disait, toi en tant qu'entrepreneur qui monte une petite boîte, tu vois, on te dit vas-y, mets-toi la tête. Moi, tu vois, je vous ai dit, j'ai jamais été employé, j'ai jamais eu de fiche de paye, j'ai jamais signé un contrat.
Bon, là, tu devrais quand même une petite fiche de paye.
Ouais, mais en fait, j'ai un director's fee, donc en fait, j'ai même pas de fiche de paye. Okay. En fait, tu sais, enfin, parce que moi, tu sais, je vis à Hong Kong. Ouais. Et à Hong Kong, il y a ce système-là qui s'appelle le director's fee. Donc, c'est comme un salaire, mais sans fiche de paye. En fait, ça me permet de manager le cash flow de la boîte aussi, tu vois. Et
ça fait bien pour la brand perso aussi. Quoi? Ça fait bien pour la brand perso.
Ouais, c'est ça, ouais. J'ai toujours pas utilisé de fiche de paye.
C'est ça.
Et, mais du coup, j'ai passé, quand j'étais étudiant, j'ai passé une semaine avec le comité de direction d'Atos.
Ouais.
C'est un truc qui s'appelait Welcome on Board.
Et j'avais t'as gagné? C'est genre une compète?
Ouais, c'était une compète à la con. L'école nous avait dit participer avec Max, on avait participé à ça.
Il y en avait qu'un,
le truc, ça s'appelait, il y en avait, on avait candidaté à deux. Okay. En fait, ils avaient dit, le truc, c'était, le sujet était un peu bateau, c'était c'est quoi le manager de demain, tu vois. Et nous, on avait expliqué en disant que le manager de demain n'existera pas, tu vois. Et on avait expliqué toute notre thèse en disant que, en fait, nous, on croyait plus à un leadership partagé. Mais en fait, à la fin, tu vois, cette thèse-là qu'on a expliquée, c'est un peu la thèse de SparkMate où aujourd'hui, il n'y a pas de manager dans la boîte, tu vois. Et que c'est un leadership qui se partage, qui bouge en fonction des moments, en fonction des projets, en fonction des choses, tu vois. Bref, on avait expliqué cette thèse-là et en fait, ils nous avaient recrutés pour passer un peu de temps avec eux. Donc, on avait expliqué ça au CODIR. On avait passé du temps avec eux. Et en vrai, quand je vois, en fait, ce que ces gens-là gèrent, moi, j'aimerais pas le faire. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, genre, dans le sens inverse,
ça serait très inconfortable pour moi d'aller faire ça, tu vois. Mais dans le même sens que, tu vois, de leur dire, aller monter des projets d'innovation, ils sont obligés de le faire. Ils ont cette demande de la part de leurs actionnaires, de la part de tout le monde, de lancer des projets d'innovation et aussi ils savent qu'en fait ils doivent le faire parce que s'ils innovent pas, en fait, pas innover, ça veut dire c'est la mort, mais c'est quand même quelque chose qui est compliqué pour eux, tu vois.
C'est ce que j'ai demandé justement, tu me disais ils sont obligés de le faire et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils essaient de suivre quelque chose. Les grands enjeux justement, c'est justement ça, de pas se faire manger par le futur, c'est cela. Et
je pense, ouais. Principalement. Ouais, je pense clairement, je pense que le jour où tu innoves pas dans l'autre, tu meurs, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est juste qu'à un moment où ils doivent manager le risque aussi, tu vois, et où nous on s'en fiche, tu vois, on prend nous, petits entrepreneurs, 30 people, on prend des risques de malade mental, tu vois.
C'est l'ADN de...
Quoi?
France compliquée, mais...
Après, tu mets la clé sous la porte, tu vois ce que je veux dire, mais on prend des risques de malade mental, et eux, c'est pas le sujet, tu vois, genre, c'est pas leur truc, tu vois.
Et du coup, pour passer un petit peu plus au cœur du sujet et à ton secteur de prédilection, une des solutions à cette problématique pour les grands groupes, c'est de faire appel à un venture builder.
Ouais.
T'en as un peu parlé. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu plus en long, en large et en travers, qu'est-ce que c'est le venture building?
Ouais. Je vais t'expliquer. Alors, moi, en gros, comment on arrive au venture building, c'est qu'en fait, moi, j'ai commencé par faire du développement de produits. Ouais. Tu vois. Donc, j'avais des gens qui venaient me voir en me disant, tiens, je veux monter ce produit-là, tu vois. Puis, au fur et à mesure, on m'a dit, oui, mais en fait, j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin que vous m'aidiez, vous pouvez m'aider sur la partie. Et en fait, on a commencé à construire une offre qu'on a construit comme étant une offre qui était la plus logique pour aider nos clients à lancer des projets. Et en fait, un jour, il y a quelqu'un qui nous a dit, mais vous êtes un venture builder. On a dit, ah oui, peut-être on est un venture builder. Donc, mais je me suis jamais...
C'était quoi l'offre au départ qui a fait qu'on t'a dit ça?
Bah, c'est juste qu'en fait, on a commencé par développer un produit pour une boîte.
Ouais.
Et puis après, ils nous ont dit, ah ouais, mais on a besoin d'aide sur la partie business. Puis après, on a besoin d'aide sur la partie recrutement. Ouais. Est-ce que vous voulez regarder ces sujets-là avec nous? Comment est-ce qu'on recrute? Donc voilà, je vais t'expliquer un peu comment ça marche, en fait, le venture building avec SparkMate.
Les autres boîtes de venture building ou c'est vous qui avez inventé ce mot?
Il y a plein d'autres boîtes, ouais. Il y a plein d'autres boîtes. Les plus gros, en vrai, j'aurais pas prétention de dire que je suis en compète avec eux, mais c'est BCGX, okay. McKinsey Bill.
Ouais, de ouf.
D'accord, donc okay. C'est de cabinet, quoi.
C'est gros, quoi, tu vois.
Ouais,
c'est vraiment des gros, tu vois. Mais ouais, BCGX, maintenant, je crois qu'ils sont renommés. Peut-être BCG Digital Venture ou BCGX, je sais plus exactement. McKinsey Build. Ce sont des gros. Après, t'en as d'autres, hein. T'as plein d'autres cabinets de venture building plus petits, plus gros.
Mais du coup, ça s'apprête à, par exemple, tu vois, BCG, ils ont ouvert plein de verticales. Ils en ont une sur l'IA, etc. Ils en ont une sur faire du produit, ou dès que t'as une problématique sur cette verticale-ci, tu fais appel à eux, t'as les meilleurs sur ce secteur, quoi.
Ouais, mais parce que BCG, ils sont en mode, c'est la façon dont BCG marche. Ils développent des, ce qu'ils appellent des practice, tu vois. Et donc, en fait, ils vont développer ça. Et donc, en fait, c'est comme ça que BCG a toujours marché, tu vois. Genre, au début, ils ouvraient des cabinets. Des bureaux,
ouais.
Et après derrière t'avais un mec qui venait et qui lançait la practice, tu vois, M&A par exemple, tu vois, et il lançait tout ça et c'est lui qui amenait les clients du M&A, parce que BCG en fait c'est un cabinet de conseil qui marche avec des partenaires, donc en fait ils ont fait la même chose sur la partie venture building, tu vois, c'est pareil, quoi. Donc t'as un mec qui va être venture building sous la même brand, sous le même chapeau, enfin je te fais un gros raccourci, mais c'est un peu comme un cabinet d'avocat, tu vois.
Ouais.
Tu vois, ça marche un peu pareil. Avec des partenaires, ils ont un PNL attaché à leur nom. Après, t'as des mecs qui, une fois qu'ils sont montés très haut, qui sont au-dessus des partenaires, ils ont...
Ils deviennent associate.
Ouais, ils deviennent référent global, en fait. Et donc, en fait, ils deviennent référent global. Et là, il n'y a plus trop de questions de géographie. Ils sont référent global sur tous les sujets. Et là, c'est faire partie de BCG. Du coup, par exemple, tu vois, tu peux aller taper, tu veux le king de, j'en sais rien, moi, du manufacturing. T'as un mec qui peut venir et qui peut t'aider là-dessus, quoi, tu vois.
Okay.
Et donc, c'est là, ils sont, ces gens, ils sont secteur, enfin, ils sont géographie, enfin, agnostique, et ils bougent partout dans le monde. Tu vas pas survivre dans des avions à faire ça. Bref. Et nous, on est pas là pour parler de BCG, mais je vous explique un peu.
On en parle déjà un peu trop.
Le venture building marche, mais en gros, le venture building, et moi, je te dis comment ça marche avec SparkMate. Et notre méthode, et je vais vous dérouler la secret sauce, tu vois. Donc, en général, on a des clients qui viennent nous voir en nous disant, on sait que notre marché est en train de changer, on sait que il y a des opportunités dans le digital, dans le hardware. Nous, en général, c'est souvent des sujets très liés, hein, hardware et digital, ouais. Parce que de toute façon, maintenant, il y a plus de hardware sans digital.
Ouais, le software est central aussi. Ouais.
Voilà. Et donc nous, on est, enfin, tu vois, tout le monde nous voit comme étant une boîte de hardware. On est la plus grosse boîte de software de la Terre. Enfin, je peux te mettre dans le sens où, tu vois, ici sur même l'ingénieur mécanique chez nous, il code, tu vois. Ouais. Tout le monde code.
C'est vrai que c'est presque un indispensable maintenant.
C'est indispensable. Donc ils nous disent, voilà, il y a ces sujets-là. Notre marché est en train de changer, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et donc, en général, nous, on leur donne, tu vois, 10 semaines, qui s'appelle Lift-Off, dans lequel l'objectif pour nous, c'est d'aller chercher des opportunités avec eux. Et donc là, on déroule notre méthodo, qui est une méthodo un peu conseil, tu vois. Okay. Où, en général, là, on va, l'objectif, c'est produire un peu de jus de cerveau. C'est Max, mon associé, moi et les plus seniors de l'équipe, qui vont discuter avec... avec qui on a envie de nous donner. Des fois on va discuter avec le COMEX, des fois on va discuter avec des équipes projet. Ça va dépendre du scope qu'on va nous donner, tu vois. Mais si tu vois, je te prends l'exemple d'une ETI, une grosse ETI, tu vois, et on va discuter avec tout le COMEX.
Le pendant... scope idéal pour toi, c'est quoi? Tout le COMEX?
Ouais, c'est discuter avec le COMEX, tu vois. Discuter avec le COMEX et comprendre, parce que c'est les mecs en général qui pas forcément sont les plus intelligents, mais qui ont le plus haut niveau d'information.
Ouais. Ouais.
Et ceux qui ont aussi le pouvoir de dire oui ou non.
Ouais, mais ça, c'est pas tellement un problème à cette époque-là, à ce moment-là de la truc. Ouais. Le but, c'est de trouver les informations. Et ces gars-là, en général, quand ils sont là dans le marché depuis longtemps, ils ont des intuitions, tu vois, sur le marché. Ouais. Donc, faut écouter les intuitions, regarder ça. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre le COMEX, après leur demander, OK, donnez-moi les plus gros clients, discuter avec les clients, clac, clac, discuter dans les usines quand il y a des usines, je vais discuter. En fait, on discute un peu partout. Et donc, pendant 5 semaines, tu vois, on fait ça un peu partout, on prend les avions, on fait le tour, on discute, tu vois. Et dès le début, on va essayer de poser des concepts. Et très rapidement, et ça, c'est notre force à SparkMate, c'est que les concepts, on va les mettre réels. Okay. On met l'équipe d'ingé dessus et on sort des concepts, tu vois. Mais des concepts, on sort des bouts de POC, tu vois.
Ouais.
Et tu vois, je te prends
c'est même pas eux qui vous fournissent le cahier des charges, du coup, si je comprends. C'est
non,
vous qui le
fixez. C'est nous qui trouvons des opportunités de marché.
Avant, vous avez carte blanche.
Voilà, on a carte blanche. Et c'est ça qu'on aime, tu vois. C'est en gros, on nous dit, allez, trouvez des choses, tu vois. Et
donc, ça fonctionnerait si c'était l'inverse?
Ouais, ça peut fonctionner aussi, ouais. Ça peut fonctionner aussi. Mais nous, on aime bien justement, des fois, ils arrivent avec des idées. On les prend quand même, les idées, tu vois. Mais on va quand même aller chercher et creuser notre truc, tu vois. Typiquement, je te prends le cas d'une boîte, tu vois, on nous disait trouver un moyen de faire nos produits moins chers. Et en fait, moi, je me rends compte, tu vois, que le business, en gros, le produit, il coûte 1 et faire tourner le produit sur 10 ans, sur la durée de vie, ça coûte 9.
Okay.
Et moi, je me dis, mais attends, si tu veux faire ton produit moins cher, il vaut mieux aller chercher grappiller sur les 9 que de grappiller sur les 1, tu vois. Et donc, du coup, en fait, on est arrivé avec un nouveau concept. On a complètement changé le truc. Et là, on a développé ça. Et ça fait, tu vois, on a développé le projet. Après, derrière, ça a donné 1 an de contrat avec eux. On a développé tout le projet. On a recruté un CEO avec eux. On a mis en place une équipe pour passer derrière nous. On a fait tout le développement du produit.
Parce que, du coup, toi, ce que tu fais, c'est une startup. Ou ouais. En tout cas, une entreprise.
Moi, on crée une startup, en fait.
Avec l'entreprise. À 50-50?
Non. C'est eux qui détiennent tout. Moi, je détiens rien.
Ok. Eux, donc, c'est une boîte qui leur appartient.
C'est ça.
Et toi, tu les aides à la lancer et à la gérer dans la phase de dev, produit, accélération.
C'est ça. En gros, si tu prenais sur une startup, je les aide jusqu'au moment où il y a des clients. Ouais. Donc, jusqu'à un niveau site, tu vois.
Jusqu'à un petit product market fit.
Ouais.
Dès qu'il y a des clients, tu disparais.
Ouais. Progressivement. Pas du jour au lendemain, mais très progressivement.
Ok. On va revenir un peu là-dessus.
J'aide.
Ouais.
Tu vois, le nom de ma boîte, c'est SparkMate, pas Spark Contractor, tu vois.
Ouais.
Je viens et on travaille vraiment en mode pote, tu vois ce que je veux dire. On est vraiment, tu vois, il y a souvent des clients qui établissent des bureaux enfin, vous avez vu, nos bureaux, c'est toujours, il y a toujours des gens qui viennent de tout et n'importe où.
Au rez-de-chaussée, il y a tout le temps des
gens. Ouais, il y a des gens partout. Tu vois, des boîtes. T'as des boîtes qui se lèvent, enfin, t'as des boîtes qui se montent à nos clients, tout le monde vient et en fait, vraiment, on travaille avec eux, main dans la main, hands-on. Parce que nous, notre motivation première, parce que tu vois, j'ai beaucoup parlé de la partie client, et qui fait que ça marche bien au niveau client, mais le vrai unfair de Sparkmate, c'est que Sparkmate attire, train et retain les meilleurs ingénieurs. Ouais. Mais en fait, comment tu fais pour ça? C'est la proposition de valeur. La proposition de valeur au niveau ingé, et ça vient beaucoup de Max et moi, c'est qu'en fait, nous, on a créé en Sparkmate ce qu'on trouvait pas dans les autres boîtes.
Sans de vous rêviez. Pour un ingénieur.
Quand on était ingénieur. Nous, on est ingénieur de base avec Max, tu vois.
Et donc, comprends à quel point ça peut être publicité.
Vous rêviez à quoi?
Bah, tu sais, tu rêvais, moi, quand on était, il y avait aucune boîte qui nous faisait rêver quand on était à l'école. Moi, tu vois, je rêvais d'une boîte dans laquelle, tu vois, on va pas me saouler, dans laquelle on me fait confiance, dans laquelle on me donne les clés.
Ok, tu pouvais construire ce que tu voulais et on se lançait des grenades à la pause d'elle.
Dans lequel c'était vraiment, tu vois, moi j'ai, dans lequel il y a une très bonne ambiance, dans lequel tu vois c'est relax, mais en fait on s'envoie vraiment, on y va, dans lequel on travaille sur des projets, on travaille sur des produits qui sont un peu game changer aussi, tu vois. C'est important, tu vois, d'avoir, tu vois, en tant que ingé entrepreneur créateur, la plus belle satisfaction, c'est de voir son produit dans la rue, dans les mains de quelqu'un, tu vois. Et genre, tu vois,
voit que ça change
les choses, tu vois. Et du coup, nous, on était là en mode, ok, il faut qu'on trouve. Et tu vois, moi, les cabinets de conseil où tu fais la sous-partie du sous-partie de la sous-partie de la sous-partie de la sous-partie d'un produit, moi, ça me faisait pas plaisir, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai toujours été un gars, tu vois, qui aime bien le context switching, tu vois. Je me fais rapidement chier. Et donc, j'aime bien, tu vois, genre.
Aller d'un truc à l'autre.
Avoir des projets, plusieurs projets en même temps, tu vois, avoir, tu vois, des projets qui durent pas. Vraiment être focus, tu vois, sur des projets, mais pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, tu vois, c'est le genre d'échelle de temps que j'aime bien, tu vois. Et donc, on a créé ça comme ça. Et on s'est rendu compte que nos teammates, en fait, adoraient ça. Et donc, tu vois, si tu parles avec les gens qui sont chez Sparkmate, sont probablement les plus passionnés des ingés que tu pourrais trouver, tu vois. T'as tout le temps des discussions avec les gens, je pense, dans mon équipe. Moi, c'est ce que les gens me disent, tu vois, quand ils viennent dans nos bureaux, ils disent, il y a une espèce d'atmosphère que tu retrouves pas ailleurs, où en fait, il y a cette espèce de truc où, tu vois, ça tinker, ça construit des trucs dans tous les sens. Souvent, bon, là c'est plutôt calme aujourd'hui, mais t'as souvent des conneries avec un qui teste un truc. Donc, tu vois, et vu qu'en général, on travaille surtout sur des trucs n'importe quoi, tu vois, t'en as un qui va... Là, on est au bureau de Paris en ce moment en train d'enregistrer, mais t'en as un qui va dans la scène tester son e-foil.
Ouais, on a vu ça.
Toujours des trucs un peu à la con, tu vois, qui se font. Ouais, il y a plein de trucs dans tous les sens, tu vois.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Et à quelle fréquence les boîtes, elles doivent faire appel à des venture builders?
La fréquence, ça dépend. Tu pourras appeler un venture builder quand tu veux. Tu vois, je pense qu'il faut pas non plus, faut pas chasser de lièvres. C'est le meilleur moyen d'en attraper aucun, tu vois. Et donc, je pense qu'il faut essayer d'y aller one by one. Après, il faut pas se lancer pendant 18 mois dans un projet quand tu sais que le projet va pas marcher. Et donc là, tout l'intérêt d'une méthode très itérative comme Sparkmate où toutes les 5 semaines, t'as des go no go, tu vois. Okay. Et donc, en fait, ce qui fait que ça permet de minimiser les risques, tu vois. Financier, temps, plus que financier, c'est risque de temps, en fait.
Donc, c'est-à-dire des go-no-go, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les 5 semaines, il y a des points où on dit est-ce qu'on va plus loin ou pas, c'est ça?
En fait, tu vois, en fait, s'il y a de l'attraction, tu continues, s'il n'y a pas de traction, tu t'arrêtes. c'est pas beaucoup plus compliqué, tu vois ce que je veux dire?
Mais c'est important parce que le nombre de grands groupes qu'on voit faire du M&A et en fait de faire des intégrations à la con, il y a une stat qui dit que je crois que c'est 80% des intégrations qui foirent. C'est pas mal, hein, 80% d'intégrations.
Et surtout, le M&A, ça coûte cher. Des fois, vaut mieux. Moi, ce que je dis, des fois, vaut mieux construire que faire du M&A, tu vois.
Et donc, comment tu fais justement cette intégration pour qu'elle réussisse et qu'elle foire pas?
Bah, nous, on fait pas de M&A. Donc, il n'y a pas très loin une intégration.
Tu crées quand même une start-up qui est annexe au grand groupe et qui, à un moment, doit rentrer dans le grand groupe. Non? Pour moi, elle reste à côté.
Moi, ce que je leur dis, c'est garder-la à côté le plus longtemps possible.
Ok.
Tant qu'il y a de la croissance sur la startup, faut la garder à côté. Okay. Dès qu'il y a plus de croissance, pour moi, c'est le signal dans lequel il faut la rentrer. Okay. C'est comme ta boîte, en fait. Le moment où tu fais plus de croissance, c'est le moment où il faut vendre.
c'est
ce que je veux dire. Et là, après, t'as d'autres gens qui viennent. Le moment où tu fais plus de croissance, tant que tu fais
des structures qui prennent le relais d'autres choses.
Ouais. Ouais. Ok. C'est le même sujet sur un grand groupe, tu vois. Il faut faire la même chose. Il faut la garder en externe le plus longtemps possible.
Et comment tu nous parlais justement de cette espèce de ce feeling où il y a beaucoup de thinkers, etc. Comment vous évaluez les idées que vous mettez en place sur les projets qui vous sont proposés? Comment vous dites, OK, celle-là, on va faire ça pour ce projet? Est-ce que vous avez des méthodos ou est-ce que c'est vraiment de l'intuition aussi
Alors, il y a de l'intuition, il y a déjà, bon, il y a plus, c'est beaucoup une intuition, hein, c'est beaucoup une question d'expérience aussi, beaucoup une question de discussion avec nos clients. Il y a plusieurs sujets, je peux te donner un peu, tu vois, des petits trucs un peu actionnables, rapidement, que tu peux faire. Le premier truc actionnable que tu peux avoir, c'est déjà taille de marché. C'est important d'avoir, et pas dans le sens, pas dans le sens, pas dans le, faut pas focus sur le TAM, tu vois ce que je veux dire, mais faut juste être sûr que ton marché il est assez profond, tu vois.
Le TAM, on va perdre les gens, mais ça fait référence au TAM,
TAM,
Tom.
TAM, c'est Total Addressable Market. C'est être sûr que ton marché il est assez profond. Vaut mieux faire une boîte moyenne sur un marché profond et un marché porteur qu'une très belle boîte sur un mauvais marché, en général. En général. T'as un sujet, donc t'as sujet là sur ça, sur le TAM. T'as un sujet du market pool, entre guillemets. Est-ce que tu la vois la vague arriver? Tu vois ce que je veux dire? C'est plus simple de surfer une vague plutôt que de créer la vague. Tu vois ce que je veux dire? Et après, moi, ce que j'aime bien, mais ça, c'est très perso, j'aime bien quand il y a des grosses, grosses barrières à l'entrée. Quand, en fait, quand la barrière à
Tu te dis qu'il y a
l'entrée,
personne derrière si tu la fais sauter, quoi.
si tu fais sauter la barrière. Et c'est pour ça que nous, dans le hardware, c'est pour ça que tu vois, sur le venture building, et nous, on est spécialisé sur le venture building très hardware, c'est que dans le hardware est une énorme barrière à l'entrée, tu vois.
Ah
Si tu fais
ouais.
sauter ça, t'en vois la fin, tu vois ce que je veux dire, t'as plus trop de
Oui,
problèmes.
une fois que t'as le produit, si tu sais qu'il y a le marché derrière.
Mais après, et c'est pas tellement une question du produit, mais après, c'est beaucoup d'itérations, tu vois, aussi, pour savoir comment tu valides une idée, tu vois. Nous, on valide une idée, c'est des intuitions, après, faut les valider dans la réalité, tu vois. Premier truc qu'on va faire, nous, déjà, c'est, en général, et ça, c'est notre côté, je pense, plus ingé, c'est qu'on va lever en premier, sous 5-10 semaines, tu vois, c'est à peu près l'échelle de temps. Est-ce que il y a une barrière technologique ou scientifique? S'il y en a une qu'on n'est pas capable de lever.
Ouais, quand c'est plus un problème d'ingé, mais que c'est un problème de science, c'est ça?
Ouais, mais en fait, même si c'est un problème d'ingénierie qui est pas capable d'être levé,
Ok.
tu vois, par exemple, je sais pas, t'as besoin de miniaturiser un truc et on n'y arrive pas, bah, t'y arrives pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas possible. Tu vois, typiquement, j'en sais rien, tu veux faire un bus électrique. Bah, tu poses 2 secondes, tu fais des calculs. Et là, t'es là en mode, ouais, bah, en fait, avec la techno qu'on a à l'heure actuelle, on va te faire un bus électrique. Si on veut mettre des batteries dedans, c'est pas possible. La densité énergétique, elle est trop haute. C'est des problèmes physiques, scientifiques, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça, il faut pas tomber dans le truc de ça. Sinon, tu fais, comment ça s'appelle, Nico, c'était quoi la boîte de trucs électriques aux US, là, qui avait le gros scam, là?
Ah ouais, j'ai plus le
Comment ça
nom,
s'appelle?
mais
Nicolas, non, un truc comme ça, je sais plus. Bref.
Tout à l'heure, t'as dit que c'était qu'il fallait que t'évalues la croissance du marché. Bah, est-ce qu'il y a un marché ou pas, tu vois? Comment tu fais pour évaluer justement le potentiel de croissance?
Ça, en général, je me base beaucoup sur les grands groupes et leur expertise du marché.
Ok.
Je me base beaucoup sur eux, tu vois. Sur les
S'ils
gars qui
disent go,
connaissent
c'est
ça.
go, quoi.
Ouais, sur les gars qui connaissent ça, tu vois.
Okay.
Parce qu'eux, ils ont des intuitions, tu vois, qui sont.
Okay. Et eux, ils ont aussi tous les contacts pour avoir les bons clients rapidement.
Le plus gros truc, c'est en fait, c'est si tu veux réussir un projet de venture building, est-ce que le grand groupe, ou en tout cas le corporate, la boîte qui est déjà là, est capable de te mettre à dispo son réseau de distrib. Si oui, ça roule.
Okay.
En général.
Pourquoi t'as jamais pris de l'equity dans ces boîtes? Tu l'as déjà fait à un moment ou pas?
Plusieurs sujets. Non. J'ai investi dans des boîtes, mais j'ai jamais pris d'equity
T'as
dans des
investi
boîtes.
avec SmartMate ou avec ta holding perso?
Avec SparkMate et avec Amperso. En gros, à côté de SparkMate, on a un club de business angel qui s'appelle Idwell Syndicate Limited et qui prend des participations dans des boîtes et qui investit dans des boîtes. Le sujet, c'est qu'en fait, prendre des participations dans une boîte, c'est un autre métier. C'est une renta à 10 ans.
Ouais, mais ça t'engage du coup sur 10 ans. Donc, si tu prends 2% de la boîte, c'est-à-dire que sur 10 ans, tu veux qu'elle réussisse. Donc, tu peux prendre un modèle où tu prends de l'equity et en même temps, tu gardes ton modèle.
De cash, ouais, je pourrais. Mais en fait, le problème, c'est que c'était beaucoup une question de focus au début. Ouais. Où en fait, moi, j'étais là dans la croissance. On est self-funded. Ouais. À la fin de la journée, le BFR, ça compte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, valait mieux croître comme ça. Okay. Là, le modèle va peut-être changer. Peut-être qu'on se posera. Moi, j'ai toujours un problème un peu contre, en fait, le tech for equity. Soit tu fais du tech for equity. Ça veut dire que tu travailles comme un VC, donc ça veut dire qu'il faut que tu mitiges ton risque, faut que tu fasses le plus de projets possible. Ça veut dire qu'il faut que tu, enfin, tu vas pas travailler
pas
avec la même qualité.
Ça peut juste être un edge sur la qualité de ton travail dans le temps.
Tu peux prendre un edge, tu peux prendre un edge, ouais, sur la fin. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu compliqué. Après, faut faire de la gestion de portfolio. Enfin, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Et au début, on n'était pas staffé pour ça. En vrai, on n'était pas du tout de ce milieu-là. On s'est pas posé la question. On voyait tous les mecs faire ça. C'est tout le temps compliqué. En plus, les négos après.
Ouais.
Tu vois, tu peux pas tellement avoir un deal qui est... Alors que moi, tu vois, j'ai un deal tout simple, c'est 100 000 US les 5 semaines, tu vois. Bam, problème résolu, tu vois. Genre t'as le budget, t'as pas le budget, tu veux travailler avec nous, tu veux pas travailler avec nous, tu vois.
Tout à l'heure, tu nous as expliqué que chez vous, tout le monde taffe en projet. Et en vrai, c'est un peu pareil dans l'équipe de conseil. Comment ça s'organise justement la constitution des équipes, la gestion des ressources dans ces startups-ci? Et est-ce que... tu fais appel à des ressources en interne du grand groupe ou c'est toi qui fournis tout?
En général, je vais tout le temps tout fournir.
Okay.
Nous, la façon dont on s'organise en interne, c'est qu'en fait, toutes les 5 semaines, on a un calendrier avec toutes les 5 semaines, les projets démarrent et finissent en même temps. Okay. Donc, en fait, contrairement à un cabinet classique, un cabinet de conseil classique, ouais, j'ai pas d'intercontrat.
Ok.
Parce qu'en fait, je travaille toujours avec en général plus de clients que ce que je suis capable de faire.
Ouais.
De faire, en tout cas, en termes de demande. Enfin, après, j'alloue mes ressources, okay, directement dessus. Et je mets des équipes, tu vois.
Tu fais ta fête tes équipes entre les pays?
Ouais, non, pas trop.
C'est galère avec les cultures et tout.
Je préfère garder Hong Kong travailler avec les clients de Hong Kong, Paris travailler avec les clients de Paris. Après, des fois, tu vois, quand j'ai besoin de piocher une compétence un peu précise, je bouge, tu vois, suivant les pays. Mais après, puis c'est surtout aussi des fois, tu vois, par exemple, typiquement, là, il y a des gars de Hong Kong qui ont de la famille en Europe, c'est l'été, ils sont un peu en Europe, tu vois, la cool, tu vois. Ça bouge, des fois t'as des gars de l'Europe qui vont à Hong Kong, ça tourne aussi, tu vois.
Mais ouais, du coup, c'est tout le temps tes ressources, et pour tous les grands cabinets, c'est aussi tout le temps leurs ressources.
Ouais, en général, on va jamais trop externaliser.
Ok. Ouais, mais tu vois, ça pourrait être intéressant, je sais pas, d'avoir un sales du grand groupe ou...
Après, ça, on s'appuie dessus, mais en général, le problème, c'est que ces gens-là, ils ont déjà un job, donc ils sont busy.
Ok.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, et du coup, c'est compliqué, du coup, c'est pour ça, tu vois, que... On a Adrie en Venture Builder qui fait ça avec nous, tu vois.
Et justement, c'est quoi le rôle du Venture Builder dans le soutien financier, opérationnel de la boîte et tout?
Alors moi, en général, je gère pas la partie, compliance, légale et tout des boîtes. C'est eux qui la créent, c'est en général, c'est les boîtes qui les créent.
Et après, dans la gestion financière de la boîte, s'il y a besoin de ressources, s'il y a besoin d'acheter du matos et tout?
Ça, en général, c'est des budgets qui sont en général votés au début.
Ok.
Qui sont transférés sur SparkMate.
Okay.
SparkMate le gère.
Pour eux?
Pour eux. Okay. Tu vois. En gros, ils nous donnent un budget.
Ils nous confient. Ils nous font clé en main, en fait.
En fait, on fait la banque. Des fois, on va prendre un acompte avant, tu vois. Ouais. En général, enfin, nous, la façon dont ça marche, c'est qu'en gros, toutes les 5 semaines, 100 000 US, on prend 60% d'acompte, 40% de livraison. Donc après, voilà. Et des fois, sur les gros projets, quand on travaille longtemps avec les gars, des fois, il y a des acomptes sur plusieurs mois qui sont mis en avant. En échange, nous, on fait un discount, ça nous permet de gérer un peu mieux notre cash flow, tu vois.
T'as eu des fails?
Ouais, moi ouais, j'en ai eu quelques-uns. Ouais.
T'as genre quoi?
Bah, des fails, tu vois, t'as par exemple quand tu fais un mauvais recrutement sur le CEO, c'est pas forcément un fail, c'est par exemple, tu vois, au début, je laissais les corporates recruter les CEO eux-mêmes. Maintenant, je leur dis non.
Ouais.
Je leur dis, laissez-moi le faire, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, ils recrutent un CEO qui est un CEO pour un grand groupe.
Ouais.
Pas un CEO pour monter une startup, tu vois.
Okay. Ouais, donc le truc au bout de 3 mois.
Bah non, c'est juste que le mec, tu vois, c'est un bon manager, quoi. Ouais. Mais il a pas le couteau entre les dents.
La culture.
Et moi, je pense intimement que pour être un excellent entrepreneur, il faut être un excellent sales. Et donc, tu vois, si le mec il a pas la dalle et qu'il va pas faire du sales tous les jours quand il monte sa boîte, qui va le faire? Personne. Donc vas-y, au revoir, tu vois. Donc ça c'est un peu potentiellement des fails. Après, j'ai pas de gros fails, honnêtement. Tu vois.
T'as jamais monté un projet qui est mort dans l'œuvre, genre un truc où au bout de 5 mois vous avez fait c'est mort?
Pas tellement, parce qu'en fait en général les fails on les a plus tôt, nous on fail plus rapidement.
Okay.
Tu sais, on fail ça fait le pas au bout de 5 semaines, tu vois ce que je veux dire.
Ça fait le bout d'une semaine, enfin, ça fait le pas au bout de...
Ouais, ça. Mais on dit c'est que ça fail, mais parce que c'est pas... En général, parce ça va fail.
Techniquement, ça fonctionne pas.
Ouais, parce que techniquement, ça fonctionne pas, parce que le marché en a pas envie, parce qu'on discute avec des, avec les clients, ils ont pas envie de, d'une offre comme ça, ils ont pas arrivé à craquer le sujet. Mais en général, nous, c'est pas tellement, enfin, la question du fail, c'est que ça va failer rapidement, tu vois.
Ouais. Okay.
C'est ce que je te dis quand je te dis, tu mitiges le risque.
Ouais.
Au début, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, je te dis, tu t'engages pas sur 18 mois avant de savoir si ça marche ou si ça marche pas. Tu sais dès le début, en fait.
Et donc, ça t'arrive jamais de faire de rendre une boîte, et qu'au bout de 6 mois, ils t'appellent et disent, bah, on n'arrive pas à signer de nouveaux clients.
Ça arrive dans le cas, dans les cas où c'était pas les bons recrutements, où moi, j'ai pas mis dans les recrutements, tu vois.
Mais toi, t'interviens pas sur les recrutements, si?
J'intervenais pas, maintenant, j'interviens.
Ok. T'interviens à quel niveau?
Bah, maintenant, j'ouvre les jobs sur les job boards de SparkMate.
Okay.
Et on recrute, en fait, moi, il faut comprendre que.
Donc, tu recrutes des CEO, toi.
Un succès pour moi, ouais. Un succès pour moi, c'est pas le succès de, c'est pas juste le succès technique, c'est le succès de la boîte, tu vois.
Ouais.
Et moi, j'ai besoin de succès pour montrer des aux autres. Donc, il faut recruter les CEO après derrière. Okay.
Comment tu trouves la bonne personne pour des projets aussi spécifiques et, avec une ADN un peu particulière? Comment tu dis ce mec, enfin, ce que t'as une méthode, c'est aussi full intuition, de dire ce gars, c'est la bonne personne.
Ouais, détecter, là, si on part dans le rabbit hole de détecter ce que c'est qu'un bon entrepreneur, c'est chaud. Après, je pense qu'on a des intuitions. Tu le vois aussi beaucoup quand t'es entrepreneur, toi aussi, tu sais un peu, tu vois, tu sais juger si un mec est un bon entrepreneur ou pas. Il y a 2-3 sujets, mais tu vois, moi, je pense, tu vois, et après, c'est toujours pareil. Enfin, c'est toujours compliqué de dire est-ce que c'est un bon entrepreneur ou pas, tu vois.
Moi, je pense. Là, c'est pas tant que c'est un entrepreneur.
Si tu cherches un entrepreneur, parce que nous, ils arrivent quand même un peu early dans les projets, tu vois.
Okay.
Mais moi, tu vois, ce que ma thèse, moi, c'est les second time founders, qui sont en général des mercenaires, qui ont déjà, tu vois, les mecs qui sont là, en gros, le second time founder, ils ont déjà existé une boîte. En général, quand ils arrivent, c'est pas pour faire joujou, tu vois. Ils sont là en mode, on va faire un truc de ouf, tu vois.
Ouais.
Et en général, les mecs sont très peu attachés à l'idée.
Ouais.
Ils sont beaucoup plus attachés au fait de faire une belle boîte et d'avoir un impact de malade, tu vois. Et donc, ma thèse pour moi, c'est plutôt d'aller chercher des mecs qui ont déjà monté une boîte,
qui ont pas de galère de tuer.
Résilience de malade, qui ont envie de prendre des gros risques, qui sont des très bons sales, qui ont en général fait des échecs exceptionnels avant. Si t'as déjà fait quelque chose d'exceptionnel, tu vas être capable de le refaire en général, tu vois.
Ouais.
Moi, je cherche tout le temps des gens qui ont eu des expériences, des vies un peu bizarres, tu vois, avant. Et après, en général, ça se passe pas trop mal.
Non, ouais, c'est cool. C'est top de ouf, ça donne grave envie. Et Paul, je crois que tu avais une question sur la hard tech.
Bah, c'est vrai que, ouais, justement, on parlait de rapidement de ce que pouvait être un bon entrepreneur. Mais est-ce que, enfin, selon toi, c'est quoi les clés un petit peu pour mieux s'en sortir? J'allais dire pour réussir, peut-être un peu gros. Pour mieux s'en sortir, justement, dans la hard tech. C'est quand même vraiment spécifique.
Ouais, c'est... People, hein. Ouais. C'est encore pire que dans le...
Ça, c'est en fait les meilleurs, quoi.
Bah, t'as recruté les meilleurs, mais c'est surtout être capable d'emmener les meilleurs dans ton aventure. Mais quand je te dis emmener les meilleurs, c'est pas forcément des employés, pas forcément des teammates, c'est emmener les meilleurs partenaires, les meilleurs prestataires,
les meilleurs suppliers.
Et c'est vraiment, c'est cette question-là, c'est ta capacité à s'entourer. Et qui est encore plus cruciale que dans une boîte classique, dans une boîte de software pur où c'est déjà ça, emmener les meilleurs. Mais là, je t'ai dit, la pluridisciplinarité fait que tu vas devoir emmener les meilleurs, mais dans plein de sujets.
Mais comment tu coordonnes un mécatronicien avec un software, avec un... C'est dur.
Moi, ma solution, c'est de dire, faut tous se foutre dans la même pièce, tu vois.
Ouais. Laissez-les discuter, quoi.
Mais tu vois, c'est un peu. Nous, on est quand même très remote friendly chez SparkMate, tu vois, parce qu'on a une culture de l'asynchrone qui est quand même malade, tu vois. Souvent, t'as tout le temps, tu vois, 3-4 gars en remote tout le temps qui tournent, tu vois. Mais c'est pas pour rien aussi, tu vois, que t'as des gars comme Elon, tu vois, qui disent le remote, c'est fini, tu vois. Dans le hardware, moi, ce que je dis, c'est que si votre job le permet à l'instant T, faites du remote. Mais à la fin de la journée, nous, c'est pour ça qu'il y a des offices et les mecs viennent au bureau, tu vois, quand même. Tu vois, tout le temps. Enfin, il n'y a pas de mecs qui sont en full remote, tu vois. Full remote n'existe pas chez SparkMate, tu vois.
Existera jamais.
Je pense que existera pas. À la fin de la journée, mec, nous, il faut même si tu fais le software, même si tu fais l'app, faut que tu sois à côté du device, tu vois ce que je veux dire. Faut que tu comprennes le truc, et faut que tu vois les problématiques de tout le monde. Et c'est one team one dream, tu vois, entre guillemets, tu vois. Genre et donc à la fin de la journée, il faut être capable d'envoyer le projet. Et si ça veut dire qu'il faut être à côté du device, à côté du truc pour taffer dessus, bah il faut le faire, tu vois.
Dans tu nous as un peu parlé de la vision de chaque projet. C'est qui définit la visio? Tu vois, c'est qui fait en sorte que tout le monde va dans la même direction?
Ouais, poser la vision des projets, c'est un vrai sujet. Bah, en général, nous, il y a toujours un espèce de lead, tu vois, côté corporate, okay. Côté client, tu vois. Ouais. Côté client, c'est les entrepreneurs, côté corporate, c'est soit un board member, entre guillemets, sur lequel on va plus se rattacher, tu vois. Ouais. Et donc, en général, cette vision-là, on va la poser avec lui. Et après, nous, avec Max, au début, c'est notre taf d'entrepreneur, on va poser ce truc-là, tu vois. On va poser, tu vois, c'est quoi un peu la vision, c'est quoi les valeurs, c'est quoi. Et on va poser un truc un peu rapide, tu vois, de c'est quoi la direction de cette boîte, c'est quoi l'ambition de cette boîte-là qu'on est en train de monter. Et après, d'ailleurs, on essaie de le suivre. Et en général, c'est souvent très lié aux valeurs de SparkMate, tu vois. Okay. En mode, tu vois, on va tout le temps dire, tu vois, par exemple, typiquement, tu vois, quand on fait une boîte avec Zodiac, le but, c'est de décarboner le maritime, tu vois. Cette boîte avec Zodiac Mipro, le long term goal, c'est décarboner le maritime. On commence par le maritime professionnel, tac tac tac, et donc tout le monde est un peu baqué là-dessus. Et quand je te dis ça se rapproche de SparkMate, c'est que SparkMate, tu vois, nous la ce qui nous drive au jour le jour, tu vois, c'est l'impact qu'on est capable d'avoir sur les gens et là comment on est capable de leverager la tech et la partie hardware de la tech sur notre société, tu vois. Ouais. Et comment on est capable de résoudre les plus gros problèmes. Nous, notre truc, c'est de dire à long terme, tu vois, et on est très pragmatique parce que il le faut, tu vois, et on est toujours une boîte self-funded et tout. Mais moi, mon goal à la fin, c'est de me taper les plus gros problèmes de cette planète et de les résoudre un par un, tu vois.
Ouais. Ça me fait une façon parfaite pour une petite question qui me venait en tête. C'est quoi, justement, selon toi, les grands axes sur lesquels le hardware va bouger les choses avec la vie du TechTap?
Alors, le hardware, c'est un truc large. Moi, je te dis les opportunités sur lesquelles, les grosses opportunités que je vois dessus. Obviously, la partie mobilité, énergie,
ouais.
Construction,
ouais.
Waste management.
Ouais.
Et là, je suis pas encore sûr. Tu vois, je sais pas si c'est un problème de hardware ou si c'est un problème de bio. C'est food production. Okay. Mais sinon, tous les autres, c'est du hardware. Tu vois, la construction, c'est le plus gros pollueur. C'est un truc qui pollue le plus. À l'heure actuelle, vous savez comment on fabrique du ciment quand même.
Ouais.
C'est tu prends une énorme toupie et tu brûles des pierres, quoi. Et t'es obligé de les brûler tellement fort que t'es obligé d'utiliser du gaz, des énergies fossiles, tout ce que tu veux, tu vois. Et ça, c'est genre, c'est les émissions de CO2 de la planète, tu vois. Tu vois, energy supply, tu vois, comment tu produis comment tu supplies en énergie. Tu as tout ce qui est smart grid et tout. Il y a des sujets qui arrivent, hein, mais on est encore loin, tu vois. Et ça, pour moi, c'est des grosses opportunités. Des trucs qui sont underlook en général.
Toi, t'as pas du tout de sujet d'intégration de start-up, du coup.
C'est-à-dire?
Bah, de faire en sorte que les projets que tu crées, t'es plus là. Les boîtes t'appellent plus au moment où elles veulent intégrer la start-up à leur groupe.
Non. Non, je fais pas ça. Et c'est surtout que les boîtes qu'on a faites sont trop récentes. Enfin, SparkMate a 3 ans, tu vois.
Ouais.
Donc, en général, les boîtes, elles se font.
Pour l'instant, c'est des startups qui existent encore.
Ouais, ça.
Et qui ont leur propre petit nom.
Ouais.
Et leur propre identité et tout.
Ouais, leur propre structure juridique.
Ok.
Donc, non, elles sont. Okay. Ces boîtes-là, elles tournent et tout. Là, la prochaine étape, tu vois, sur SparkMate, c'est de dire, en gros, est-ce que, tu vois, on va pas, au lieu de. En fait, les budgets avec lesquels on travaille sont hauts.
Ouais.
Et donc, en fait, la prochaine étape, c'est de dire, en fait, est-ce qu'en fait, au lieu de faire ça projet par projet, est-ce que vous ne donnez pas un budget et on vous crée 3-4 boîtes sous 5-10 ans dans cette verticale.
Ok.
Tu vois.
Ouais, mais du coup, pour que t'aies la vision et que t'aies les...
Tu travailleras toujours side by side avec eux. Ce sera toujours mes investisseurs. Okay. La relation serait une relation investisseur. Tu vois, en fait, ce serait comme si on était un fonds de CVC, j'en sais rien, je sais pas trop exactement, mais tu vois, un budget comme ça, tu vois. Et ce serait une relation un peu différente, tu vois, sur lequel aussi nous, on serait peut-être incentivé au long terme. Ouais. Tu vois, c'est un peu les sujets que je me pose là en ce moment. Et en
fait, au lieu qu'un grand groupe fasse un fonds de corporate venture, il fasse appel à toi. Au lieu de mettre l'argent dans le fond, ils le mettent chez toi et toi tu crées des solutions.
C'est ça.
Et du coup tu peux avoir un seul acteur d'un seul marché. Si tu fais ça.
Ouais.
Ok. Tu peux pas avoir deux acteurs du BTP.
Bah, tu peux avoir peut-être deux acteurs du BTP si t'as des thèses différentes sur les chaque, sur chaque, tu vois. Si sur un, tu dis, il y en a un, on se focus, procédé de fabrication des matériaux. Et il y en a un, on se focus sur, j'en sais rien, moi, IoT et robotique pour la construction, tu vois.
Mmh.
Ok. Et comment tu designes, enfin, c'est une question ouverte, mais comment on design aujourd'hui des, justement, des solutions sur mesure pour autre que soi? T'as des conseils par rapport à ça? C'est vrai que ça peut paraître compliqué de se dire, comment je transpose vraiment leur idée du truc aussi dans moi ce que je vais créer.
Ça, c'est compliqué. Dans le sens où, quand on développe les projets, en général, nos clients donnent carte blanche.
Ouais.
Donc, on n'a pas trop,
on
n'a pas de contraintes.
Okay.
Mais quand on travaille avec les entrepreneurs, parce que tu sais, moi, SparkMet, on a beaucoup parlé corporate, ouais. Mais 50-50. Je travaille 50% avec des entrepreneurs, 50% avec des corporates.
Ouais.
Je travaille avec des entrepreneurs, je le fais beaucoup. Et ça, là, le truc, il est très simple, c'est beaucoup de communication, discuter ensemble, entre guillemets, avec nos clients, passer beaucoup de temps, tu vois, moi, j'aime beaucoup, tu vois, mettre mon équipe, tu vois, qui s'est bouffée avec les entrepreneurs, qui comprennent c'est quoi la vibe, tu vois, c'est quoi la volonté, c'est quoi l'ambition derrière, tu vois. En général, des fois, les entrepreneurs sont pas les meilleurs pour pitcher leur vision, tu vois. C'est beaucoup dans leur tête. D'ailleurs, pour ça qu'on les prend pour des fous, tu vois. Et c'est beaucoup dans leur tête. Et donc, du coup, tu vois, j'aime bien aussi, tu vois, qu'ils passent du temps ensemble. Donc, c'est pour ça que mes bureaux, bah, je vous ai dit, tu peux venir dans les bureaux quand tu veux. Tu peux. Ça permet à l'équipe, parce qu'à la fin, c'est pas à moi de comprendre la vision. Tu vois ce que j'ai. Après, moi, des fois, je vais souvent faire l'interprète. Des fois, j'arrive, je pense, tu vois, souvent à reprendre la vision d'un mec, à la réécrire.
Mais pour
la réexpliquer à mon équipe.
Les entrepreneurs doivent être les meilleurs sales. Et donc, être un bon sales, c'est bien communiquer. Et être percutant dans sa communication. Quand ça se fait, sont pas capables de donner leur vision.
Tu peux être un très bon sales.
Oui, tu sais ce que tu dis, tu sais où est-ce que tu
veux. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Au début, en fait, t'es en train de, que si tu parles à un mec, tu sais, qui est pas forcément éduqué sur ton marché, sur ce que tu fais, tu vas pas forcément arriver à passer tes idées le plus rapidement possible. Ou des fois, au début, c'est un peu flou dans leur tête aussi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu démontes.
Oui, ils ont plein de biais, des biais que tu dois déconstruire pour peu à peu leur faire comprendre que ton truc, c'est pertinent.
Ouais.
Ok. Ok. Paul, est-ce que t'as d'autres questions? Je sais que tu voulais aussi parler hardware, parce que on en fait pas mal chez SparkMate, mais...
Non, je dirais, avant d'aborder ça, est-ce que... enfin, comment vous managez justement dans la communication avec ces grands groupes, cette gestion de l'incertitude et du risque qui sont présents au quotidien sur les projets que vous lancez? Est-ce qu'ils en ont conscience?
Ok. Full transparence. Une des valeurs de SparkMate, c'est make it obvious, tu vois.
Ouais.
Et plus qu'être transparent, c'est faire en sorte que le mec en face de toi, il ait compris ce que tu lui disais. Tu vois, c'est ton, chez SparkMate, c'est une des grosses valeurs, make it obvious. C'est parce que t'as beaucoup de startups, tu vois, qui vont avoir, comme valeur, la transparence. La transparence, ça veut juste dire l'accès à l'information.
Ouais.
Chez SparkMate, c'est en plus de donner l'information, tu dois, toi, en tant que personne qui donne l'information, être garant du fait que le mec en face va comprendre.
Mais est-ce que ça, c'est pas une règle universelle si tu veux vendre avec des gros chiffres et d'autant plus vendre à des grands groupes? Tu vois?
Ouais, de toute façon, enfin, moi je crois beaucoup à ça. Hein. C'est pour ça que c'est une des valeurs de ma boîte. Hein.
Ouais,
tu vois ce que je veux dire? C'est tout aussi important que l'ownership. Et du coup, non, on n'a pas trop de sujets. On parle, en fait, des risques. On parle de tout ça, tu vois. Après, nous, on dit, voilà, voici les risques. Mais quand on vient et qu'on arrive avec un problème, voici les risques, voici ce qu'on a identifié.
Et voici les solutions.
Et voici ce qu'on va faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, le risque, il est mesuré, il n'est pas vraiment
ça pose,
là.
Voilà, ça pose rarement de problèmes. Après, c'est sûr que, tu vois, sur les projets, on prend moins de risques sur les projets qu'on en prendrait des fois, nous, sur notre boîte, tu vois.
Ouais, c'est vrai que je voulais, avant de glisser tranquillement vers la fin de l'épisode, je sais que t'as des choses intéressantes à dire sur le hardware, on avait un peu discuté déjà. Est-ce que tu penses que c'est fait déjà pour tout le monde d'entrer dans le hardware? Est-ce que ça demande certaines... est-ce que tu vois des patterns dans les types de profils qui sont un peu faits pour ce genre d'aventure?
Bah, fait pour tout le monde, oui et non.
Ouais.
En fait, c'est toujours pareil. T'as des entrepreneurs qui sont excellents et qui arrivent à s'entourer très vite. C'est fait pour eux, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Mais en fait, il y a un vrai sujet dans le hardware, c'est que le hardware, il y a eu beaucoup moins d'argent dans le hardware depuis dans les dernières années. qui dit beaucoup moins d'argent dit beaucoup moins de talent.
Ouais.
Et du coup, la probabilité statistique de trouver un très bon entrepreneur dans le hardware, elle est moins haute que dans le software.
Ouais.
Parce que t'as moins de mecs. Donc statistiquement, bah t'as... En trouver un bon. Et en trouver un bon, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est un sujet. Après, je pense que le hardware, ça, c'est accessible pour tout le monde. Si tu te fais bien accompagner.
Okay.
Et moi, c'est ma thèse, tu vois, c'est qu'il y a des gars qui viennent travailler avec SparkMate, qu'ont pas, qu'ont jamais rien fait dans le hardware, et qui s'en sortent super bien. Il faut juste qu'ils soient super hands-on. Il faut qu'ils aient pas peur de remonter le, de se remonter les mains. Et voilà. En général, je trouve que les entrepreneurs qui réussissent bien dans le hardware sont des très bons opérationnels.
Okay.
Parce qu'en fait, quand t'as un bon opérationnel, en général, t'arrives à...
Ouais, gérer les bordels du quotidien, quoi. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et donc, en général, c'est mon pattern, c'est le pattern que je trouve qui réussit bien dans le hardware. Après, un bon entrepreneur arrive de n'importe où, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est, il n'y a pas de règles, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué de mettre des règles là-dessus. Mais voilà le pattern que moi je vois. Et après, ouais, tu peux très bien réussir dans le hardware, même si tu viens pas du hardware.
Ouais. C'est important de le rappeler, parce qu'on est quand même aujourd'hui une frilosité que je pense que tu pourras confirmer à aller sur ces terrains-là. Pourtant, comme tu le disais, au vu des enjeux qu'on va avoir à gérer, il y a quand même besoin. Alors, on va pas rentrer trop dans le solutionnisme technologique, mais je pense qu'il y a quand même besoin de répondre aussi à des problématiques.
Ah ouais,
des
c'est hardware.
Donc, qu'est-ce que tu dirais pour motiver entre guillemets quelqu'un qui hésite à aller sur ce terrain-là, du fait que ça puisse paraître un peu insurmontable, tu vois?
Ouais, bah le hardware, c'est compliqué. Ça veut pas dire que c'est impossible.
Ouais.
Si t'aimes le défi, tu vois. Le reward, mais en termes, il y a le reward financier, mais il y a aussi le reward en termes d'impact. Il est énorme, tu vois, si t'arrives à, tu vois, le mec, je te disais, on me disait tout à l'heure, le mec qui a trouvé la solution de l'énergie pas chère, sera sûrement le mec qui sera le plus riche du monde, tu vois.
C'est fort probable.
Tu vois ce que je veux dire? Et sera sûrement le mec qui aura changé la vie de milliards de personnes, tu vois. Après, tu vois, moi, c'est ma vision des choses, je suis pas très social media, je suis pas très ce genre de truc, tu vois, mais des fois je pense que, tu vois, il y a beaucoup de talents en fait qui pourraient aller dans le hardware, qui devraient aller dans le hardware, et tu vois, au lieu de refaire un clone d'un SaaS B2B, tu vois, moi je me dirais bah venez monter des belles boîtes dans le hardware, il y a des gros sujets sur lesquels il faut s'attaquer, et c'est pas infaisable, tu vois.
C'est ce que tu penses, qu'à partir du moment où on hésite, c'est presque déjà pas trop tard, mais te dire si j'hésite, c'est qu'en fait j'ai peut-être pas le mindset pour se dire écoute, entre les dents, aller tacler des sujets comme ça.
Non, parce que l'appétit vient en mangeant, tu vois ce que je veux dire, genre dans le sens où il y a beaucoup de gens en fait qui se posent pas la question, qui se disent le hardware,
non,
c'est pas fait pour moi, tu vois. Et tu vois, je te prends l'exemple, tu vois, Adrien, il a monté une boîte avant de venir chez SparkMate, tu vois. Il m'a dit, si j'avais su que SparkMate existait avant, j'aurais peut-être monté un truc dans le hardware, tu vois.
Ouais.
Il avait dit, si j'avais vu que c'était aussi simple, entre guillemets.
Ouais.
Entre gros
guillemets. Derrière, l'entrée était...
Avec les bonnes personnes,
moins...
en fait. Parce que SparkMate, à la fin de la journée, on va pas se mentir, ce que tu viens chercher, c'est que tu viens chercher une équipe qui a la tête bien faite, tu vois. Et c'est pas impossible de faire du hardware sans SparkMate, loin de là. Juste, SparkMate, t'as une équipe, ça te permet d'avancer vite, elle est déjà recrutée, elle est déjà prête, elle est déjà trainée. Ouais. Mais si t'es un bon entrepreneur et que t'es capable de t'entourer, tu peux t'entourer très bien, tu vois. T'as des gars, tu vois, enfin, tu vois, c'est un pote qu'on a en commun, mais Clyde de Dark, tu vois, il se lance dans le hardware, dans un des trucs potentiellement les plus compliqués. Il a une capacité à s'entourer de mecs géniaux, d'investisseurs géniaux, de gens géniaux autour de lui. Tu vois, Clyde, on parlait aussi, tu vois, de gros problèmes. Clyde, s'il réussit ça...
Clyde, là, il va récupérer les satellites dans l'espace pour les désorbiter, pour éviter qu'ils créent plein de débris et qu'ils détruisent d'autres satellites.
Clyde, s'il arrive à faire ça, mon gars, tu vois ce que je veux dire, c'est, il a tout gagné, tu vois.
Et du coup, pour finir cet épisode, on sent bien que l'équipe, elle est essentielle. Mmh. Comment tu recrutes? Quel pattern t'as entre tous tes CEO, s'il y en a un? Et quel pattern t'as entre tous les gars de ton équipe?
Ouais.
Ou à peu près, tu vois.
La bombe.
La bombe, ouais.
Bah attends, déjà, il est encore en forme, là. Il a juste la cheville dans le plâtre.
C'est clair. Juste.
Le pattern sur les CEO. Je t'ai dit ça, c'est dur de mettre un pattern sur un CEO.
Ouais.
Je peux te parler du pattern que j'ai dans mon équipe.
Ouais.
Tu vois. Qu'est-ce qui fait une bonne équipe? C'est, je pense, la chemistry. d'une équipe.
Ouais.
Comment ils sont ensemble, tu vois.
Ça se crée, ça, ou...
Ouais, ça se crée. Ça s'initie au démarrage avec les fondateurs. Et après, ça se crée en rajoutant les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Faire attention.
Et faire un bon onboarding aussi, non? Ouais, des trucs de solidarité.
Une question que je me pose beaucoup quand je recrute quelqu'un, c'est je prends les 3-4 champions de mon équipe.
Ouais.
Et je me dis, est-ce que ce mec-là serait capable d'aller en soirée avec ces gars-là? Est-ce qu'il serait capable de passer un week-end des vacances ensemble? Si oui, je pense qu'il y aurait une bonne chemistry. Pour ça, quand tu rentres ici, t'as l'impression que tout le monde est un peu pote, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Si tu viens à un event Spark Meet et tu restes à un afterwork, en général, tu comprends.
Ouais, à 4h du mat, il y a encore tout le monde.
À 4h du mat, il y a encore tout le monde. Donc, t'as déjà ça. Ça, c'est chemistry.
Ouais.
Characters, c'est la personne, l'individu, tu vois. Genre, c'est qui il est, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Et vraiment, tu vois, ce qui est important, tu vois, c'est que... moi, après, c'est mon équipe et c'est très perso. Moi, j'aime les gens qui ont du caractère, tu vois. J'aime les gens qui ont pas peur de lever la main, qui ont pas peur de parler, qui ont pas peur de dire. Et ça, je pense que c'est important. Et le dernier truc, c'est ce que j'appelle compétence, en fait, parce que un jour, j'avais écrit un article en disant, une bonne équipe, c'est compétence, caractères, chemistry. Et j'ai dit, read it in reverse, tu vois.
Ouais.
Et en fait, je pense que c'est ça qui est très important. C'est le chemistry, c'est le plus important. Après, les caractères des gens. Et en dernier, les compétences, tu vois.
Oui, les
mais
compétences,
ça veut pas dire, mais ça veut pas dire que tu dois avoir des mecs qui n'y connaissent rien. Tu vois, quand les gars ils rentrent chez nous, en général, bah, tu vois, moi, il y a un truc que je fais beaucoup aussi, c'est les mecs qui font du hardware, je leur demande, tu vois, nous, déjà, on recrute sur portfolio, tu vois.
Okay.
Donc, si t'as pas une imprimante 3D dans ta chambre, en général, tu rentres pas chez toi, tu vois.
Le truc.
Et no fake, au début, c'est un pattern que je trouvais rigolo, parce qu'au début, les premiers mecs qu'on recrutait, ils avaient des imprimantes 3D dans leur chambre, tu vois.
Ah, bah, je vois exactement le genre.
Quoi?
Je vois le genre.
Ouais. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est pas, tu vois, si tu regardes le profil des gens chez SparkMate, c'est pas le profil, tu vois, que les gens pourraient penser ingé très renfermé sur eux-mêmes.
Ouais,
tu vois.
Ce que j'allais dire.
Sors pas de ta chambre, il
fait. Tu vois, les gars qui sont quand même à l'aise à l'oral, à l'aise dans les relations sociales,
ouais,
qui
ouais,
parlent et tout.
Bah ouais. Puis après, c'est aussi fait pour être, enfin, la culture de SparkMate fait que ça te met très très à l'aise aussi, tu vois. Mais c'est plus, ouais, c'est ce que après nous c'est la culture qu'on a cultivée, tu vois ce que je veux dire, et c'est très important en tant qu'entrepreneur de cultiver une culture, tu vois. Tu peux on parle du recrutement, le recrutement c'est un point, mais en fait c'est comment tu attractes, ça c'est un premier sujet, ce que les gens voient de ta boîte, comment tu recrutes et comment tu traînes, et en fait c'est tout ce scope là qui est et comment tu retains aussi les talents, et c'est la culture, c'est tout ce que tu mets en place, tu vois. Et nous avec SparkMate on a essayé de faire ce qui nous semblait le plus, donc tu vois, c'est des offside trips, c'est des moments ensemble, et une équipe, ça se construit hors des bureaux, tu vois. Ouais. Ça se construit sur des soirées, sur des week-ends, sur le bateau de wake, enfin tu vois, c'est...
En parachute.
En parachute. Ça se déconstruit aussi. Ça casse des jambes au parachute.
Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés sur le venture building et que tu aurais aimé qu'on aborde, où on a fait un bon tour, un bon panorama global?
Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Après, moi, ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est venez faire du hardware. Il y a des trucs cool à faire. Il y a des gros sujets. Mais non, j'ai pas beaucoup de choses en plus à.
On a fait un bon tour. Bah écoute, merci beaucoup Morgan. Avant de te quitter et que tu nous quittes plutôt, est-ce que il y a des grandes questions philosophiques, sociales que tu te poses sur la vie, je sais pas, l'avenir de la production d'énergie, parce que t'en as parlé à plusieurs reprises.
Ouais, il y a plein de questions que je me pose, Après, ça va être long si
c'est
on
quoi,
se tape.
C'est quoi les deux trois les plus stressants en tête?
Si on se tape les sujets. Moi, il y a des sujets. Il y a un gros sujet, c'est vers où on emmène la société. Et je crois beaucoup que les entrepreneurs, en fait. On a un rôle à jouer. En fait, vous savez quoi, je vais être transparent et je vais être cash, je crois pas en la politique. Et je crois beaucoup à l'entrepreneuriat, en fait. Dans le sens où, en fait, il y a un sujet, c'est que les gens, tu vois, dans l'histoire de la planète et de nos sociétés, tu vois, les gens sont rattachés à des causes, sont rattachés à des groupes, tu vois.
Ouais.
Et c'était les religions, ça a été ça pendant longtemps.
Ouais.
Ça rattachait les gens ensemble. les gens, enfin, je vous parle de religion. Moi, je suis athée et pas baptisé, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Je suis peut-être pas la bonne personne pour parler de ça. Mais tu vois, c'était les clubs de foot, c'était les, tu vois, les gens se rattachaient à des groupes, tu vois. Et en fait, il y a un groupe. Et en fait, la perte de trust en politique, le fait que les gens croient plus tellement aux religions. En fait, c'est qui va amener ce lion, tu vois. Et je pense que les entreprises, elles ont un rôle à jouer là-dedans, tu vois, sur des causes, sur des choses. Et je pense que les boîtes qui vont être capables de créer les communautés autour, tu vois, et qui vont être capables d'emmener, de faire vibrer une nouvelle génération, c'est elles qui vont gagner, tu vois. Ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième truc, c'est la technologie. Les gens qui développent la technologie, on a vraiment un rôle à jouer sur où est-ce qu'on va. Alors, est-ce qu'on veut passer notre temps à... et je veux pas faire du jugement de valeur, tu vois, mais est-ce que, tu vois, enfin, est-ce que il faudrait qu'on mette plus de cerveau sur tel sujet plutôt que sur d'autres, tu vois. Et ça, c'est pas un sujet, tu vois, qu'on peut pas dire on va mettre plus de cerveau. Il faut que des entrepreneurs viennent et se mettent à monter les boîtes pour qu'il y ait plus de cerveau sur, tu vois, tous les problèmes que je vous ai liés, enfin, que je vous ai listés tout à l'heure. Si on veut mettre plus de cerveau, faut mettre plus d'entrepreneurs, faut mettre plus d'argent, faut mettre plus de choses. Ça va être une volonté un peu globale, tu vois. Et ça, c'est, il y a personne qui va décider tout seul, tu vois. C'est, y a pas, on n'a pas un dictateur qui va dire, OK, les gars, maintenant, demain, sauf si vous vivez dans une dictature, mais tu vois, il y a pas un dictateur. Et donc, c'est des gens qui doivent aller le faire, tu vois. C'est un peu le truc how to start a movement, tu vois ce que je veux dire. C'est les premiers qui vont y aller, mais ce qui est plus important, c'est les deuxièmes. C'est les gars qui vont suivre, tu vois. C'est les gars qui vont amener, et c'est ça qui va... Quand tu en as un, tu en as deux, tu as le troisième qui arrive, qui est très grave, et c'est là où tu crées un mouvement et tu crées ça. Et moi, un des gros sujets, tu vois, je vais vous donner un exemple, tu vois, j'en parle toujours, tu vois, c'est... J'ai un de mes super potes, tu vois, qui était... un super pote entrepreneur qui venait d'acheter du land dans le metaverse, tu vois. Et qui, on en parlait, tu vois, moi, je dis, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous, acheter cette merde et tout. Et il me dit, ouais, mais mec, tu comprends pas, il y a des gens, ils préfèrent vivre dans le métaverse, ils préfèrent vivre dans un monde virtuel parce qu'ils kiffent plus leur vie là-dedans, tu vois. Ouais. Et du coup, lui, en bon entrepreneur, il disait, il y a une opportunité, moi, j'achète du land et je vais revendre de la land dans le métaverse, tu vois. Et il disait, bon, c'était en 2020, tu vois. Et moi, tu vois, ce jour-là, je suis...
Trader du métaverse.
Quoi?
Trader du métaverse.
Ouais, et moi, je suis sorti de mes gonds, tu vois, je lui dis, mais mec, mais comment tu peux dire ça? Tu dis, s'il y a des gens qui vont pas bien dans notre monde, genre, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre monde. Ça veut dire qu'on doit le fixer. Ça veut dire qu'on doit le réparer. Ça veut dire qu'on doit. Et tu vois, moi, j'étais là, mais en mode, mais t'es malade. Genre, s'il y a des gens qui ont pas confiance en eux, mais putain, on les prend, on va les emmener, on va leur faire du sport, tu vois. Et donc, du coup, lui, à ce moment-là, en fait, il achetait du laine dans le métaverse. Et moi, je devenais personal trainer en rigolant, tu vois, le soir, tu vois. Et en fait, je disais, mais attends, mais tu sais quoi, moi, toi, tu vas acheter des laines dans le métaverse. Tu vas leur faire des boutiques pour qu'ils puissent faire des trucs sans sortir de chez eux. Moi, tu sais quoi, je vais faire un autre truc, c'est que je vais prendre des mecs qui n'ont pas confiance en eux, je vais les emmener à la salle gratos et je vais les aider à reprendre confiance en eux par le sport, par tout ça, tu vois. Et je pense, tu vois, il y a un vrai sujet là-dessus, c'est où est-ce qu'on va emmener, tu vois, la planète, les gens, et tu vois, il y a des gros sujets sur l'éducation, tu vois. Moi, j'en ai pas parlé, c'est pas mes sujets de prédilection parce que mes sujets, c'est le hardware et l'éducation, voilà, mais tu vois, c'est le plus gros sujet de nos sociétés, c'est l'éducation, mais l'éducation à tu vois, tu vois, souvent, les gens ont dit un corps sain dans un esprit sain, tu vois, enfin, un esprit sain dans un corps sain, tu vois, mais je pense que c'est des choses qui sont importantes. Il y a plein de sujets là-dessus, tu vois, être bien dans ta peau, être bien dans le monde dans lequel tu vis. Et moi, je suis intimement persuadé que, et c'est un vrai sujet, c'est la, je pense, la place du sport, la place de plein de choses. Moi, j'ai toujours beaucoup craché sur les jeux vidéo, et je sais que c'est un sujet qui fait tabou, mais en fait, parce que j'ai souvent opposé jeux vidéo et sport, tu vois, je sais pas si t'as besoin de les opposer, mais tu vois, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup plus de sport que jeux vidéo. J'étais dehors dans les bois en train de construire des cabanes, en train de faire du vélo, en train de faire du VTT. Et ça, je pense, c'est important, tu vois, le sport comme étant.
C'est un truc qui revient chez les au sein de SmartMate ou même au sein des CEO des startups que tu vas chercher. C'est que des sportifs ou pas?
Écoute, c'est très rigolo parce que.
Parce que moi, je crois que j'ai une thèse là-dessus, mais je sais pas.
Ouais, c'est très rigolo parce que alors les gens chez SparkMate, t'as des sportifs et pas des sportifs. Ouais. Il y a eu des moments où ça a pas du tout été ça. Là, il y a une espèce de shift entre guillemets qui est emmené un peu par quelques gars de la boîte où ça commence à être, tu vois, Enfin, tu vois, j'en rigolais avec mon associé Max ce week-end, tu vois, où on disait, j'aime bien le shift culturel qui est en train de se passer chez Sparkmate, où le week-end, ça va faire du wake sur le câble, ça va faire du ski, faire du VTT, faire des randos ensemble. Donc, il y a un espèce de shift qui se fait un petit peu comme ça. Mais oui, je pense que globalement, si tu regardes les gens chez Sparkmate, ils sont quand même plutôt sportifs, tu vois. C'est simple, c'est qu'en hiver, ici à Paris... ils sont tous dans les Alpes en train de skier. Là, le week-end, tu vois, ça part faire du kite. Enfin, tu vois, c'est.
Donc, non, c'est. Et est-ce que c'est parce que la mentalité d'un sportif, du dépassement de soi, de la rigueur, de la segmentation des objectifs, c'est un truc qui est, en fait, très similaire à l'entrepreneuriat, en tout cas, à la création de.
Je pense, ouais. Je pense, c'est. Après, moi, j'ai toujours dit, tu vois, que si tu veux être un bon entrepreneur, faut que tu te considères comme un athlète.
Ouais.
Pas forcément dans le sens où t'as besoin de t'entraîner tous les jours, mais en fait, il faut que tu t'organises comme un
ouais, s'entourer des bons des professionnels comme un sportif
et du coup ouais donc je pense qu'il y a des choses similaires. Après je pense que c'est juste aussi les gens qui sont chez Sparkmate sont des gens qui sont en général high octane, tu vois,
ouais.
Et qui aiment bien, tu vois, le risque, qui aiment bien tout ça, donc tu vois
tu le retrouves dans les sports extrêmes et tu te pètes la cheville en faisant du saut en parachute.
Ouais. ça c'est mon cas, mais tu vois t'as beaucoup de tu vois, t'as des excellents snowboarders, des excellents skieurs, des kiteurs, t'as Jacob qui était dans l'équipe de Nouvelle-Zélande de je sais même pas comment ça s'appelle, le hockey sous-marin, là, tu sais.
Oh ouais, okay, ouais.
Hockey sous l'eau.
Ouais, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, là, c'est leur palais, là.
Je sais plus non plus, mais.
J'ai bouffé le nom du truc, mais t'as ce genre de truc, t'avais un gars qui faisait du floorball aussi, de ouf, il y a tu vois, t'as Manon qui fait du vélo en veux-tu en voilà, qui vient qui se fait je sais pas combien de boards de vélo par jour, enfin, et le week-end aussi. Donc je pense que c'est aussi cette question du, enfin, je pense que c'est aussi culturel, tu vois ce que je veux dire, et aussi quand tes pères le font,
ouais,
tu vois ce que je veux dire, genre tu sais quand t'es
emmené dans un
effet
mouvement
de groupe, tu vois ce que je veux, ouais, dire, t'as un effet de groupe, tu vois. C'est simple, on parlait du parachutiste, tu vois, mais là on a fait l'offsite avec toutes les boîtes de The Quest, tu vois, il y avait 5 mecs qui sautaient. Sur les 5, il y en avait 4 de Sparkmate, tu vois.
Ouais. Plus que de chez The Quest.
Quoi?
Plus de personnes que de chez The Quest.
Ouais, c'est ça.
L'impression.
Après, ouais. Chez The Quest, il y en avait qui avaient déjà passé leur pack et tout, mais.
Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Morgan, pour cette discussion. Et puis, très chers auditeurs, n'oubliez pas qu'un épisode qui sort tous les mardis, je crois, à 6h, et une newsletter tous les dimanches, on décrypte l'actualité tech et économique, en France et à l'étranger, qui sort, je crois, tous les dimanches à 6h aussi. Voilà. En tout cas, on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci, salut.
Merci.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.